Bon, attends, je vous préviens, ça fait 4 ans que j'ai pas fait ça, donc je vais être un peu maladroit.
T'inquiète pas, on est là.
Alors, attends. Hop. Donc, si je touche là, là.
Doucement.
Un peu trop fort, là.
Attends. Faut que je mette mon doigt là?
Oui.
Oui.
Attends.
Doucement.
Attends.
Oh. Ah.
Oh, là, je crois que c'est bon là.
Ah, c'est pas mal là.
Ah, c'est bon?
Je crois que c'est très bon là.
Ouais.
Ah, c'est okay. Parfait là.
Attends, je m'enflamme un peu trop là. Attends. Ok.
Prends ton temps.
Ouais, j'ai pas envie que tu partes trop vite.
Respire.
Ok.
Ça va bien se passer.
Attends, je vais y aller. Vous êtes prêts?
Oui.
Bonjour.
Ah.
Pardon. Non.
Il m'a coque bloqué. Bon, bah, vous l'aurez compris, c'est le retour d'État de la Lumière.
Toujours le même professionnalisme.
Bonjour Aurélie, bonjour Joël.
Bonjour Bruno, hello. Bonjour Aurélie.
Ça va les gars?
Ça va.
Ça fait longtemps, hein?
Un poil, ouais.
Ça fait 4 ans, 2 mois et 4 jours.
T'as vraiment compté ou pas?
Ah bon.
Bah c'est con, ça aurait été impressionnant.
Ouais, ça aurait été super cool.
Vraiment, on aurait fait quel cinglos.
Il met une petite croix dans son calendrier.
Tout, chaque jour, sur mon mur. Et un bâton sur mon mur à chaque jour, sans éteindre la lumière.
Alors, vous ne nous attendiez plus, nous non plus.
Nous non plus.
Et un jour, on s'est retrouvés tous les trois. Et puis, il y a eu un long débat où j'étais un peu, bah, vous me connaissez,
hein,
le mec qui freine, qui fait « Non, mais vous savez, pourquoi reviendrez ?» machin. Et au final, nous voilà tous les trois réunis dans la même pièce. Et ça, moi, c'était la touche importante pour ce retour d'État de la Lumière, c'est que je voulais qu'on soit vraiment tous ensemble. Et on s'est décidé, on s'est dit « Bon, allez, on va relancer ça. Nouvelle formule ». Genre, il y a déjà eu des formules dans l'État de la Lumière. Il y a eu des tentatives de formules. Est-ce que vous vous rappelez de l'époque, on a voulu faire des chroniques?
Oui, bien sûr.
Voilà.
Ça marchait 2 épisodes.
Ouais, ouais.
Les 12 jours de Star Wars.
Ça,
aussi.
C'était bien.
Ça, c'était autre chose. C'était un spin-off.
Oui, mais quand même.
On l'a fait deux fois.
On a fait des spin-offs.
On l'a fait deux fois, les 12 jours.
Parce que moi, il y a quand même eu une chronique sur Breaking Bad, la parodie porno. J'ai retrouvé le texte récemment, j'ai fait putain, j'ai fait ça.
Mais oui,
je
mais t'avais pas, t'en as fait plusieurs.
Non, je devais en faire plusieurs.
Ah oui, c'était l'idée.
On a chacun fait une chronique et puis on n'a plus jamais continué les chroniques. Donc la nouvelle formule d'éteindre la lumière, attention, ça c'est vraiment l'étudiant littéraire qui se dit moi je suis un fou dans ma tête. La nouvelle formule, c'est qu'il n'y a pas de formule.
Waouh, mind blown. Mind blown.
Et éteindre la lumière était peut-être. Oh, je suis un peu prétentieux en disant ça, votre podcast préféré sur le cinéma.
En toute modestie.
En toute modestie, évidemment. Non, mais c'était peut-être un podcast sur le cinéma. Aujourd'hui, bon, on n'est même plus vraiment sûr que c'est qu'un podcast sur le cinéma. C'est un podcast, ça va parler de cinéma, parce qu'on est toujours des gus qui aiment le cinéma. Mais en fait, on est des gus qui allons quasi plus au cinéma, soyons tout à fait honnêtes. Ce qui a pas mal aussi joué sur notre absence. Hein. Il y a eu évidemment les années Covid.
Comment ?
Covid.
Je connais pas.
Tu connais pas ? C'est comme insérer un gag.
Plus tard, insérer gag au montage.
Non, j'avais Covid et Jonathan.
C'est, pas
mais,
mal.
Mais je savais pas où aller derrière, tu vois.
Est-ce que tu ventiles pour les vacances ?
Est-ce que
donc ce retour va être un petit peu avorté très tôt parce que on en est déjà à ce genre de blague au bout de 100 minutes d'émission, ça ne va pas. Ça ne va pas.
Oui. On a dit qu'on revenait, on n'a pas dit qu'on revenait avec plus de répartie.
Non. Ça c'est vrai. Mais on est là et on est quand même vachement content. Moi je suis contente de vous retrouver parce que ça m'a manqué.
Alors après, disons-le quand même aux auditeurs, on s'est quand même vu depuis ces 4 ans.
Ah bah oui,
même.
Non, mais bien oui, bien
c'est
sûr.
C'est la première fois que je vois ces deux personnes depuis 4 ans.
Je ne me rappelais plus de leur visage.
Menteur.
Bon, en vrai, ça fait 3 ans et demi. Le dernier qu'on a fait, le dernier vrai épisode qu'on a fait, c'était celui sur la fête du court-métrage. Peut-être notre meilleur épisode de tous les temps, et après on a arrêté.
Non,
il y a un épisode juste derrière celui-là. Hein. Il y a l'épisode qui s'appelle « Dernier film avant la fin du monde ».
C'est vrai.
Qui, pendant longtemps, a été le dernier épisode d'Éteindre la Lumière, et je trouvais ça très très beau de me dire « Bah en fait, on l'avait annoncé qu'on revenait pas. Hein. »
Ne soyez pas surpris, finalement. Oui, je pense que la question que tout le monde se pose depuis 4 ans, c'est que, enfin 3 ans et demi, que sommes-nous devenus? Qu'est-ce qui s'est
la
passé dans nous?
Sur toutes les lèvres.
Bah évidemment, je veux dire.
Je sais pas comment on s'y prend pour expliquer. Bah déjà,
je pense que c'est peut-être Joël qui a eu le plus de changements dans sa vie.
Non, ça va. C'était quand le dernier épisode, du coup? C'était en 2020?
Ouais.
2020, donc c'était juste avant le... Non, c'était juste après le... la fermeture de tout, il me semble. Hein, c'était en...
Oui, on était déjà confinés.
Parce que ouais, la fête du court-métrage, c'était une semaine avant le début du confinement. Je me souviens parce que je suis tombé malade juste après être rentré de Paris.
Sachant qu'on avait Félix Moati qui toussait un petit peu.
Oui. Je vais biper ça parce que j'ai pas envie d'avoir de problème.
Ah, pourtant, on pourrait name drop là. On pourrait trop dire, on Moati, sait qui est le patient zéro.
Le patient zéro. En plus, c'était super sympa avec nous, quoi. Mais
ouais, il nous a refilé le Covid, super.
On a refilé le Covid d'une star.
Tu vas devoir biper plein de noms.
Je me souviens que ouais, j'étais malade pendant une semaine après être rentré de Paris. Ensuite, on a fait le dernier épisode. Ouais, donc on devait être déjà en confinement quand on a fait le dernier épisode.
Oui, c'est pour ça qu'on l'a appelé dernier film avant la fin du monde, parce que c'était les derniers films qu'on a vus en salle, mm-hmm, bah, avant la fermeture des salles, tout simplement. Ouais.
Et après ça, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie à ne rien foutre chez moi, être payé pour. Et c'était super.
Et il a fait du sexe.
Et quand on y a rien à faire, on passe le temps comme on peut.
Oh bah c'est sympa pour Agnès. Bah c'est vrai.
Pourquoi?
On passe le temps comme on peut.
On n'a pas le choix.
Au creux de l'hiver, il fait froid.
On aurait pu faire une ratatouille, on a fait un gosse. Oh, j'ai spoilé.
Oui, j'ai eu un petit bébé qui s'appelle... je ne vais pas dire le nom parce que c'est ma vie privée, mais...
Raoul.
Qui s'appelle Raoul Jean-Pierre, tout attaché. Pas de tirer.
Tout attaché, c'est le troisième prénom.
C'est ça, Raoul Jean-Pierre, tout attaché. Et voilà.
Vous êtes sadomaso avec ta compagne, c'est pour ça que vous l'avez appelé tout attaché.
Oh my god.
On parle de mon enfant là,
vous
quand même.
Vous voyez pas sa tête, mais il est genre trop content de lui et il nous regarde avec un grand sourire. Et ouais, c'est qui ai dit ça.
Et elle va bientôt avoir 2 ans, là, dans 10 jours à peu près, dans moins de 10 jours. Et c'était 2 années très mouvementées.
Il, Raoul, Jean-Pierre, tout attaché.
Mais tu vois, il brouille les pistes. Un coup, c'est elle, un coup, c'est il. On ne sait pas.
Il. Et c'était 2 années très mouvementées, plein de cris, de pleurs, d'amour, de caca, de couches à changer.
Mais ça, c'était avant que vous ayez un enfant.
Exactement. Et je suis très heureux de mon nouveau rôle de père. Sinon, des films, j'en ai vu aucun. Je connais plus. Non, si, j'en ai vu plein, mais on va peut-être en parler plus tard. Non, mais c'était ça plutôt le plus gros changement de ma vie là, depuis la fin du podcast. La première fin du podcast, parce qu'il y aura sûrement plusieurs fins du podcast par la suite. Et Aurélie, qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ces trois dernières années?
Bah, j'ai pas fait d'enfant, par contre. Donc déjà, voilà.
Vous allez voir, on va aller de plus en plus décevant dans la création.
C'est pas décevant, ma fille.
Non, mais ce que je veux dire, c'est on a les grands changements, les moyens changements,
oui, c'est vrai.
Et Bruno.
J'ai pris, par contre, la meilleure décision de ma vie, qui a été de quitter la région parisienne. Et d'habiter un petit peu plus loin, à peu près à 2 heures de Paris, dans une nouvelle ville, toujours bibliothécaire, mais avec les enfants cette fois. Et je vis ma meilleure vie depuis. C'est vraiment très bien, beaucoup plus chill. Je vais pas du tout au cinéma, du coup, par contre, parce que plus petite ville dit un seul cinéma qui passe que de la VF, donc du coup, bah, j'y vais plus.
Pour voir des films français, maintenant.
Ça dépend. j'ai aussi plus de cartes de cinéma, donc ça change la donne quand tu dois payer, en fait. Genre, comment? 13 euros? Mais ça va pas, non?
C'est 16 euros dans...
Non, 13. Bah, le seul cinéma qui est à côté de mon nouveau chez moi, c'est un...
C'est quand même une chaîne, quoi.
Oui, c'est une chaîne.
Ah oui,
c'est CGR. Mais ils ont même pas de carte de fidélité.
Ah, je les aime pas, CGR.
Et ils font quasi que de la... Ils ont 2-3 séances en VO, mais c'est genre des horaires et des jours obscurs. Où, du coup, t'es genre, bah, c'est un jeudi à 15h, je ne peux pas y aller.
Je travaille.
Donc voilà. Mais à part ce petit désert cinéma, c'est vraiment très cool et plus proche de la nature et loin de Paris. Et quoi d'autre? Et je passe mon permis. J'ai eu mon code. Pause for applause. Merci.
Tu sais, hein, je l'ai eu à 15 ans, hein, donc
oui,
je vais pas te féliciter d'avoir mis 18 ans de plus que moi.
Bah, je pense que les règles ont changé. Les règles ont changé depuis ton époque lointaine. Et les questions sont toujours aussi faciles, mais bon, en tout cas, la préparation est plus dure. Mais voilà, je passe mon permis et c'est cool. Et la vie va plutôt bien. Mais ça me manquait de plus papoter avec vous en live. C'est pour ça qu'avec Joël, on a été relou et on a insisté pour que Bruno, il veuille bien refaire du podcast.
On refait du podcast, Bruno, on refait du podcast. Vous l'avez pas fait comme ça. J'avais un petit chien tout triste qui me regardait en mode... Et Aurélie.
Eh, bah quoi?
Bah j'ai pas de vanne à dire sur toi.
Bah alors... non, moi j'étais convaincue. Non, moi j'étais genre...
Toi t'étais le chien excité. Oui. J'avais deux chiens
j'étais
en fait.
J'étais méga pep talk en mode... Allez.
Ah bah ça commence bien, voilà, ça commence. Il nous dit à nous deux, deux racisés qu'on est des chiens.
Deux racisés qu'on est des chiens, bravo.
Voilà,
belle
ça commence bien.
Bruno, bravo. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as changé?
C'est quoi ces trois dernières années? Tu t'es radicalisé, c'est ça?
Alors, j'ai rejoint le Rassemblement National. J'ai ouvert un petit bar qui s'appelle la... qui est un bar de petits nazillons.
Va falloir rebiper, là.
Voilà. Moi, je suis devenu soutien d'Éric Zemmour. Et je me suis mis... je sais pas. J'allais dire, je me suis mis en concubinage avec Norman Tavo et Luc Besson.
Wow.
Ça va être... On va biper tout ça. On va rien entendre du passage pendant deux minutes. Ça va faire bi.
Mais moi, il y a pas.
Laissons-le. Hein.
Moi, il y a vraiment pas grand chose. Le gros changement, c'est, je suis enfin reparti de chez les darons.
Yeah.
Ah, bah, ça change la vie. Hein.
Depuis bientôt deux ans déjà. Et c'est à peu près tout. Let's go, guys. Non, j'ai trouvé un emploi stable.
Bah oui, t'avais pas de... Bah, ouais.
J'ai trouvé un emploi fixe. Et depuis quelques jours, j'ai une nouvelle activité parallèle à mon job, puisque je suis animateur de quiz dans des bars, en parallèle de mon taf de graphiste, ce qui me permet de gagner des sous pour un futur voyage potentiel, vu que j'ai jamais voyagé dans ma vie. Et je me suis dit, let's go, 2024, l'année du voyage. Donc,
mais
voilà.
Bruno, maintenant que tu as une plateforme pour faire ta pub... Où est-ce que ça se passe, ces quiz, trivia
Vraiment, je vais faire de la pub, genre, bah, tu penses qu'il y a des gens qui vont venir?
C'est notre podcast, on fait ce qu'on veut.
Alors, je fais... ouais, mais ça dit aux gens un peu où je vis, mais c'est pas grave.
Attends, tu m'énerves, t'as une peluche au bout du nez, là, voilà.
J'avais un gros Mickey d'1m50 au bout du nez.
Oh, c'était une peluche.
Justement, une peluche Mickey, c'est le gag. C'est vrai que les Mickey, c'est les crottes de nez.
Bah, oui.
donc je fais ça à la capsule, à Arras, un jeudi sur deux à 19h30 et au Oxford Café à Lille, le jeudi sur deux en alternance avec Arras. Voilà, et c'est des quiz durs, et les gens, ils me font « Ah ouais, d'accord, ouais, c'était dur. »
Mais ils ont bien aimé.
Ils ont gagné de la bière gratos, c'est bon quoi. Hein, parce que oui, c'est pour gagner de la bière, évidemment.
Évidemment.
Voilà. Est-ce que t'es un peu le nouveau, t'es le remplaçant d'Alain Chabat, quoi?
Non, je suis un peu le nouveau Cyril Ferraud.
Alors ça, c'est une vanne que j'ai pas du
Who
tout.
Who the fuck is Cyril Ferraud?
Vous connaissez pas Cyril Ferraud?
Non.
C'est l'animateur de Slam et...
Ah oui.
Et il faisait Ken dans Fort Boyard, parce qu'à un moment, ils avaient Ken dans Fort Boyard. Okay. Enfin, c'était pas un Ken officiel, il s'appelait Cyril Gosbo.
Oh.
Et c'était lui en mode Ken de Barbie.
C'était la même époque. En ce moment, il y a un shérif, on est d'accord, dans Fort Boyard.
Mais tu sais que j'ai pas vu un épisode de Fort Boyard depuis
mais
20 ans.
On en a pas parlé la dernière fois déjà. Quand on est parti en vacances avec Lee là, et on s'est arrêté, Lee, mon amoureux, on s'est arrêté sur la route dans un hôtel pour pas faire 1000 heures de route. Et du coup, on s'est posé devant Fort Boyard et Lee ne connaissait pas. Et moi, j'étais genre hyper fière, genre tu vas voir, c'est des épreuves super cool. Et mais à l'époque, c'était stylé.
Mais et non, là... ça n'a... Alors, spoiler, mais ça n'a jamais vraiment été stylé. Mais... C'est juste qu'à l'époque, on était le public cible.
Oui, certainement. Mais je trouve que les épreuves étaient cool. Généralement, les candidats, c'était des gens que tu connaissais. Là, vide intersidéral,
mais
j'ai reconnu
aucun. Mais parce qu'on a 50 ans.
Ah oui, c'est pour ça.
Dis-toi que si les gamins d'aujourd'hui, ils vont peut-être reconnaître.
En plus, la boule est morte. Donc du coup, il y a un nouveau gars qui est son demi-frère ou son jumeau, je sais pas quoi, qui le remplace.
La demi-sphère, il s'appelle.
Non, faut pas l'encourager, Joël, ça suffit. Et il y a un shérif maintenant.
Comment il s'appelle, le shérif?
Avec des cheveux longs et des lunettes. Et je vois pas comment il justifie le fait qu'il y a un shérif dans Fort Boyard.
Ils ont dû trouver un jeu de mots pour mettre un shérif dans Fort Boyard. Comment ils ont pu l'appeler?
Je sais, aucune idée.
Bon, mais cherche pas, mais non. C'était, je lançais un petit jeu, un petit quiz, un petit truc d'improvisation, Joël.
Le shérif...
Je sais plus comment il s'appelle.
Omar Shérif.
J'ai pas mieux.
Non, ouais, là, c'est...
Le shérif Alouna.
C'est en Bretagne, Fort Boyard?
C'est à La Rochelle?
Donc c'est pas la Bretagne.
Non, c'est pas la Bretagne. C'est surtout pas la Bretagne.
Non, mais ils ont peut-être fait un jeu de mots, tu vois. Mais après, je crois que Père Fouras, c'est parce que Fouras, c'est pas un village ou un coin de local. Donc c'est peut-être genre shérif, une ville du coin de La Rochelle. Shérif La Rochelle. C'est un beau passage de podcast.
Pour ce segment sur Fort Boyard.
Pourquoi on en est arrivé à Fort Boyard? Ah oui, parce que le nouveau Cyril Ferraud, tout
d'accord,
ça, vous n'aviez pas là.
Oui, c'est ta faute.
Le petit chouchou des
donc
petits.
Donc oui, allez, on peut dire le nouveau Alain Chabat, c'est vrai, en toute modestie, c'est vrai.
Parce qu'on le rappelle, Bruno était dans Burger Quiz.
Mais non.
Mais
si, je t'assure, Bruno, tu étais dans Burger
Quiz. Bruno a perdu dans Burger Quiz.
Vous savez que je dois faire une confidence.
Oui, c'était pas toi.
Non, du moment où je suis passé à Burger Quiz, j'ai vu aucun autre épisode.
Le mec s'est juste focus sur lui-même.
Je n'ai vraiment vu très peu d'épisodes de la nouvelle mouture. Je suis pas... Oh, bah, en fait, j'ai eu l'impression d'atteindre mon goal ultime, tu vois, d'y participer, de voir Chabat, de voir tout ça. Voilà, fin.
Ciao.
Je n'ai jamais regardé la suite.
Mais c'était un très bon épisode, au-delà de ça. C'était
c'est pour
vraiment
ça qu'il est tout le temps rediffusé.
Ah, exactement. Et dans les...
Il est aussi rediffusé tristement, parce que depuis, il y a eu le décès de Bakri et tout ça. Donc, il y a eu des raisons moins joyeuses de la rediffusion de
Oui, mais il est quand même tout le temps... Moi, je me rappelle, je t'avais envoyé un message au jour de l'an. Il était dans les best-of comiques du jour de l'an. Et on était en train de faire la cuisine, ça passait à la télé, et je t'ai envoyé un texte.
Je peux t'interrompre, parce que tu as dit les best-of comiques.
Oui,
moi, je connais pas trop les best-of tragiques, en mode, hey, cette année, on va...
Non, mais ça peut être des fails, mais non. Non, parce que là, c'est vraiment
tout
juste
soon,
des moments
non,
de comédie, alors que normalement, tu peux avoir des fails, des gens qui tombent, des animaux, on s'en fout. Mais bref, tu apparais très souvent.
C'est de la comédie aussi, pour moi, des gens qui tombent.
Oh, merde, voilà. Je dis plus rien.
Éteindre la lumière, un spectacle plein de... Un spectacle. Je suis devenu Robert Hossein. Robert Hossein présente. Éteindre la lumière.
Est-ce que t'as déjà raconté comment t'avais fait la sélection de Burger King?
Attends, on
c'est
revient.
On a fait un épisode.
Je m'en rappelle pas.
Non, mais t'étais pas encore.
Vous n'étiez pas parmi nous, très cher.
D'accord.
La vignette, c'était un truc style Burger Quiz.
Oui. Okay. On avait fait un petit épisode spécial pour parler un peu de l'expérience de
Burger Quiz. Vraiment, le retour, on en reparle de Burger Quiz, ça me fait.
Mais en fait, c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui.
C'est vrai, c'est grâce à ça qu'Aurélie est parmi nous.
Oui, parce que sinon, nous, on était là quand même.
Bah oui, je sais. En tout cas, à Zélez.
C'est vrai, c'est beau. Je suis ému.
Mm-hmm. Don't do it.
Eric
Non.
Non.
Je me sentais arriver.
Non. Ça va faire venir des gens dans notre public, on veut pas.
Non, parce que c'est un enculé de sa race. Vous êtes des gros droitards de la merde. On ne vous veut pas parmi nos auditeurs. Ça va, c'est plus clair ou pas?
Oui, c'est très clair. C'est très bien.
Voilà.
La politique. Bon. J'ai cru que t'allais dire la politesse. La politesse, c'est de les insulter à mort.
Crac, manger des pommes.
Écoutez.
Tu le fais bien, toi, je trouve.
Je sais juste dire écoutez.
Aurélie, un truc qu'on t'a jamais demandé, t'as une imitation? Quelqu'un,
non.
Tu te dis, moi, je pense, je le fais bien.
Stitch.
Vas-y.
Oh, non, signifie famille.
Alors, ouais, ok. Alors, bon, là, tu nous as fait Nicolas Canteloup.
Mais c'est faux!
Si, c'est-à-dire que t'imites en disant une réplique culte ou un truc. Fais-nous Stitch qui dit...
Nicolas Canteloup, c'est Stitch avec l'accent du Sud.
Oh, pêcher!
Oh, pêcher! Voilà!
Non, fais-nous Stitch qui dit un truc qui est pas dans Lilo et Stitch. Dis-nous, fais-nous Stitch qui dit manger des pommes. C'est Chirac, manger des pommes.
Merci, oui, je peux pas vous me regarder, ça me
gêne. On te regarde pas. Vas-y.
Manger des pommes.
C'est pas un peu plus Gollum que Stitch?
Mais c'est un peu la même voix.
Chers auditeurs, est-ce que Stitch et Gollum, c'est la même voix? Appelez-nous au 06.
Est-ce que je peux bouger juste un peu mon micro?
Oh non, ça va faire un bruit épouvantable. Vas-y, fais-le. De retour sur Éteindre la lumière après une magnifique chanson de Sacha Distel. Nous allons tout de suite prendre les appels pour la rubrique sexo.
Faut que j'arrête de tripoter ça.
Mais arrête de... Oui.
Non, j'ai besoin de jouer avec
en plus, je suis irrité.
J'ai envie de faire quelque chose avec moi comme ça parce que je suis stressé.
Non,
pourquoi
te stresser, mon lapin?
Ah, c'est beaucoup, c'est quelque chose de grand pour moi de revenir ici avec vous.
Non.
Bah, alors, si t'es stressé, je vais vous proposer un petit moment relaxation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ça, et comme bah, on a envie que l'émission soit un peu une émission culturelle, je vais vous proposer un petit instant audiobook.
Oui, on aimerait un public plus intelligent.
Voilà, donc je vais vous lire une œuvre écrite par Ellen Weiss. Je vais vous lire le premier chapitre.
Une autrice, du coup.
Oui, pardon.
Parce qu'on met en avant aussi la littérature féminine.
Et traduit par Madame Nathalie Rimbaud.
D'accord.
Voilà.
La cousine d'Arthur Rimbaud.
De Rimbaud 2. Alors, premier chapitre. La chasse au personnage de conte de fées. Il était une fois une ravissante princesse victime d'un sort maléfique. Ça vous détend ou pas pour l'instant ?
Bah, attends.
Ce dernier ne pourrait être rompu que par le baiser d'amour d'un beau prince. Mais la princesse était enfermée dans un château que gardait un terrible dragon. Et beaucoup de braves chevaliers avaient vainement tenté de les libérer. Shrek lisait dans les...
Mais non, recommence. Faut pas rigoler.
C'était dur. C'était dur, le Shrek.
Le mec attendait que ça de name dropper. Shrek.
Sérieux.
Shrek lisait dans les cabinets derrière sa cahute. Bien que le livre soit un peu usé, il était encore très beau avec sa précieuse reliure de cuir. Shrek regarda l'image représentant la jolie princesse qui courait à travers un champ de fleurs en soulevant ses larges jupes. On observait dans le fond un château féerique.
« N'importe quoi !»
ricana-t-il en arrachant la page du vieux livre de son énorme main verte. Il n'avait plus de papier. Cette feuille ferait parfaitement l'affaire. Il ressortit des toilettes. C'est long, hein, le chapitre, quand même. Hein. Shrek était vraiment très laid. Normal pour un ogre, non ? Il avait la couleur de la soupe de bois rance, des oreilles en forme de clairon et des dents qui pouvaient broyer des pierres. Pourtant, Shrek se sentait très bien dans sa peau. Peu lui importait que les gens de la ville le traitent d'horrible monstre, du moment qu'il le laissait tranquille. Je vais m'arrêter là parce que je trouve qu'on a déjà, à travers cet extrait, vraiment le contenu très riche. Voilà, c'est un livre sur l'empowerment, le fait de s'apprécier tel que l'on est et de ne... Je sais pas, c'est Shrek.
Tu sais ce que ça m'inspire ? J'ai envie de faire un slam.
Je vous écoute.
Quelqu'un m'a dit un jour que le monde allait m'enrouler. Je ne suis pas l'outil le plus coupant dans la cabane à outils. Elle avait l'air idiote avec son doigt et son pouce qui formaient un L sur son front. Bon, les années commencent à passer et elles n'en finissent pas. Nourrie aux règles, et j'ai frappé le plancher en courant. Ne pas vivre pour le plaisir n'avait aucun sens. Ton cerveau devient brillant, mais ta tête devient idiote.
J'ai trouvé ça très beau.
Je suis sans voix.
Je crois que ça s'enchaîne avec « Et maintenant, tu es une toute étoile. »
Je sais pas la traduction de ce qu'ils ont dit.
Comment ils ont traduit « All Star »?« Hey, now you're an All Star. » »«
Et maintenant, tu es une vedette. Tu fais ton jeu. Va jouer.
» Tu fais ton jeu, va jouer.
Allez, tiens, pour ça, va jouer sur l'autoroute.
Allez, vas-y. Bon.
Alors, vu qu'on était un podcast de cinéma à la base, est-ce qu'on parlerait de cinéma un petit peu ?
Bah, je sais pas si vous avez tous des trucs à parler sur le cinéma. Moi, je peux trouver des choses dont je peux parler.
Oui, on a tous vu des films ces 4 dernières années. Hein.
Ah bah, il y en a eu quelques-uns.
C'est
vrai que si on avait un peu préparé l'émission, on aurait pu se dire, est-ce qu'il y a des films où on s'est senti frustré de pas pouvoir en parler dans le podcast ces 4 dernières années ? Mais vu qu'on n'a pas bossé, bon bah...
Moi, j'ai vraiment pas vu grand-chose au cinéma. Je crois que le dernier, c'était Boy is Afraid. Donc, ça remonte à août.
Je l'ai pas vu.
Moi non plus.
Yay.
Yes.
J'ai pas vu Barbie. J'ai pas vu
Oppenheimer.
J'ai pas vu Mission Impossible 7.
J'ai vu Barbie, j'ai pas vu Oppenheimer. J'ai pas vu Tommy Tom court après une bombe.
Et la plupart des gros films qui sont sortis récemment, vraiment, je les ai pas vus. Enfin, des gros films, des films en tout cas dont les gens parlent beaucoup, je les ai pas vus.
Parce que sinon, en gros film, on a vu Indiana Jones, mais personne n'en parlait.
Ouais, voilà. Alors, la raison pour laquelle on a vu Indiana Jones, c'est notamment... Moi, c'est un peu pour ça, parce qu'à un moment, on avait travaillé un pilote d'un... T'as l'air d'un... Non. Tu as eu un accident de voiture récemment. J'ai l'impression que tu as oublié beaucoup de choses autour d'éteindre la lumière.
Ouais.
Tu te souviens pas quand on avait travaillé
c'est
un
parce
pilote...
C'est parce qu'Aurélie a une vie très mouvementée, donc elle se souvient de rien. Ouais, elle se passe tellement de choses dans sa vie.
Ah non, je vieillis, et du coup, j'oublie la moitié des trucs.
C'est pire,
ouais, c'est pire.
Parce que pour éteindre la lumière, à un moment... Pendant cette période un peu houleuse, on avait bossé un pilote, on essayait d'imaginer ce qu'aurait été, enfin, ce
mais
que pouvait
si,
être
oui,
Indiana
oui,
Jones 5.
Oui, moi, d'accord.
Et donc, on avait inventé tout un truc autour de la légende arthurienne. On s'était basé sur l'idée de George Lucas, qui était de vouloir faire un jour un Indiana Jones dans une maison hantée.
Mm-hmm.
Et on avait fait que ça se passait dans le domaine Jones, on va dire.
Le manoir ancestral des Jones.
Ouais, c'est ça, en Écosse, tout ça. Enfin, on avait relié la légende arthurienne. Est-ce qu'on avait foutu du Loch Ness ou pas? Peut-être pas.
On avait foutu du Loch Ness parce qu'on a mis... c'était ce côté fantastique.
Ouais, il fallait un élément très fantastique dedans à un moment. Forcément, quand Indiana Jones 5 est sorti, je me suis dit que... vas-y, je vais regarder pour voir est-ce qu'il y a des éléments qui étaient communs à notre idée et au résultat final. Non.
Non, non, non.
Te connaissant, c'est genre, je vais voir si mon idée elle est mieux que ce que s'ils ont choisi.
Tu veux que je te dise sincèrement? J'y ai un peu pensé.
Mais évidemment. Mon idée, elle aurait été mieux.
Pourtant, alors, ça va peut-être choquer des gens. C'est pas super du tout. J'ai pas haï le film. Je trouve que ça ruine pas l'image d'Indy. Donc Indiana Jones, c'est And the Dial of Destiny. On se retrouve à parler d'Indiana Jones, c'était pas prévu. And the Dial of Destiny, donc c'est Indy qui pendant la Seconde Guerre mondiale, on voit Indiana Jones, ce qu'il a fait concrètement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on le voit récupérer un artefact des nazis qui va devenir un peu le MacGuffin du film, puisque cet artefact, s'il est réuni, en gros c'est une pièce d'une plus grosse pièce, on va dire.
Le cadran d'Archimède.
Et si tout est réuni, va se passer quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, même si on se doute qu'il y a un peu de voyage dans le temps, quelque part, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est quand même un truc de temps, on va
dire.
Oui,
le méchant dit clairement qu'il veut utiliser ce cadran pour rectifier ce que Hitler
a raté. Ouais, c'est vrai. Et
oui, parce qu'on revient avec les nazis.
Ils ont essayé les Russes, là c'est peut-être pas trop le moment, donc
façon,
du coup ils sont
Indiana
partis
Jones
sur les nazis.
Tabasse des nazis, ça reste toujours la meilleure chose qui existe au monde.
Même dans notre version qui se passait aussi à la même époque, c'est peut-être le seul point commun qu'on a, c'est que ça se passe à la même époque et ça se commence à New York, et nous aussi il y avait une scène à New York dans le début, dans notre version à nous. Ouais, tu vois, le pitch est pas dingue, ça fait petite histoire, on va dire, dans la vie d'Indiana Jones. Ça fait une énième aventure d'Indiana Jones. Là où nous, on voulait faire un truc genre empirique autour de la famille Jones, et on était peut-être un peu excessif là-dedans, tu vois.
On était parti sur ces trois enfants. On s'était imaginé qu'il avait une fille avec... comment elle s'appelle déjà? J'oublie son nom.
Marion? Non.
Non, pas Marion, l'autre, dans le deuxième. Willy.
Elle a un garçon.
Willy, ça me parle.
Ouais. Willy Scott. qu'il aurait une fille avec elle qui serait devenue une professeure d'archéologie. Il y aurait eu le retour de...
Demi-Lune.
Sous son vrai nom.
Qui se faisait plus appeler Demi-Lune. Tu vois que c'est en mode... c'est un peu dégradant. c'est pas mon vrai nom.
J'ai un peu 50 ans aujourd'hui quand même. Et aussi le retour de Mutt, du coup.
Ouais,
le
en fait, on voulait... Il y avait l'enfant qui représentait l'aventure, l'enfant qui représentait le côté chien fou, on va dire, et l'enfant qui représentait l'aspect professeur...
Académique du professeur Jones, ouais.
Parce qu'on s'était dit, de toute façon, Harrison Ford, il est trop vieux pour les scènes d'action, et c'est ce qu'on voit dans le résultat final de Dial of Destiny, où la moitié des scènes d'action, c'est des courses-poursuites en bagnole, parce que c'est le seul truc crédible que peut faire un enfant. Ce qui rend les scènes d'action assez peu mémorables, part au début.
Oui, et parce que ce qu'on avait déjà, on avait déjà discuté de ça, c'est que c'était le réalisateur, c'est
James Mangold.
Merci, James Mangold, qui avait aussi fait Logan. Et pour moi, ce film est comme Logan, ont le même problème, c'est que alors c'est une, je trouve que l'écriture des personnages et du personnage principal qui est très vieux, qu'on voyait déjà dans Logan, était très bien. mais après les scènes d'action étaient pas du tout mémorables.
Ouais, les scènes d'action sont vraiment pas terribles. Par contre, voilà, c'est l'aspect sur lequel je voulais venir. Ça ruine pas du tout le perso d'Indy. Le perso d'Indy, vieux à New York, râleur, parce que ses voisins font de la musique, tout ça.
Qui sort avec sa batte en caleçon.
C'est 100% le Indy vieux que j'imaginerais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas un film qui fait mal à Indiana Jones. C'est juste peu mémorable, sauf ces 15 dernières minutes qui sont assez rigolotes.
Après, je pense pas qu'on puisse vraiment ternir l'image d'Indiana Jones. Je sais pas, je trouve que c'est un héros tellement ancré dans nos vies, dans... Je sais pas si vraiment un film vraiment nul, ça me ternirait pas l'image d'Harrison. Enfin, même quand ça avait été annoncé, je sais qu'il y avait plein de gens qui étaient un peu saoulés de ça. Moi, je suis toujours hyper contente d'imaginer Harrison Ford, même quand il pourra plus marcher, bah c'est pas grave.
Indiana Jones, c'est vraiment un très bon personnage et c'est aussi un des rares personnages récurrents que Harrison Ford aime beaucoup. Tu vois qu'il a beaucoup d'affection pour ce personnage quand tu le vois dans les... quand tu le vois faire la promo d'un Star Wars où il en peut plus. Il en peut plus qu'on lui demande si Han Solo il est dans le Faucon Millenium, est-ce qu'il peut faire... Non, il en peut plus. Il a juste envie de se tirer une balle. Mais oui, on voit qu'il aime beaucoup Indiana Jones. Et je pense que c'était aussi important pour lui de le voir vieux dans ce film. Parce qu'il y a eu plusieurs moments sur le tournage où il a râlé en disant « Mais laissez-moi être vieux quand même !»
Mais c'est hyper important, je trouve, pour un personnage qui, pour le coup, nous a suivis quasi toute notre vie. Enfin, nous, Indiana Jones, on l'a vu petit. Et je trouve ça hyper important de grandir, mais de vieillir avec lui aussi. Quoi. C'est super beau de voir qu'il le fait toujours. Ouais. Et je me rappelle, alors j'ai malheureusement pas encore vu le film, mais je me rappelle qu'à la bande-annonce, j'avais été super émue de le voir vieux et toujours là. Enfin.
Et ils ont réussi, bon, on va pas trop spoiler, mais ils ont réussi à faire une conclusion au personnage émouvante sans être larmoyante. Il n'y a pas une surcouche de pathos ou quoi que ce soit.
Non, non, bah, comme Logan, les meilleurs moments, c'est les moments très intimistes et il y en a dans ce film. Les meilleurs moments du film, c'est les moments très intimistes.
Ce qui est quand même un petit peu bizarre pour un film Indiana Jones, on est d'accord. Mais c'est vrai que ces moments-là, tu te dis, bah ouais, j'y crois, ce perso d'Indy, je crois qu'il vieillira comme ça, et je crois, enfin, et c'est les moments vraiment réussis du film. Et toi, Aurélie, est-ce qu'il y a un film, parce que là, on s'est retrouvé à parler d'Indiana Jones que tu n'as pas vu, est-ce qu'il y a un truc dont tu voudrais nous parler? Tu peux parler de Boys Afraid, parce qu'on sait que t'es une très... À la base, t'es une Ari Aster girl, on va dire.
Ouais.
Ari Aster Stan.
Oui, complètement. Ouais, je sais pas.
Je te l'impose pas, si, si tu veux parler d'autre chose.
C'est parce que... Ouais, ça reste un des... Pareil, un bon choc aussi au cinéma, pour ceux qui l'ont vu, ils savent pourquoi. Mais j'ai aimé et puis enfin, je trouve que il propose quand même malgré enfin l'image qui reste la même, la direction d'acteur qui est assez proche aussi de film en film, je trouve qu'il arrive toujours à proposer une forme d'horreur différente. Le film est divisé, le film est assez long, c'est à peu près un dernier truc que je reprocherais.
Peux-tu en préciser de quoi ça parle sans peut-être trop en dire.
C'est hyper compliqué de résumer ce film.
Ouais, mais je me dis, il y a peut-être des gens qui
visualisent
pas ce qu'est
Boys Afraid. Donc, Boys Afraid, qui est donc avec Joaquin Phoenix. Surtout, il y a aussi quelques acteurs secondaires, mais le film est vraiment centré sur lui au maximum. Et donc, le personnage de Beau, qui vit dans un appartement assez insalubre, dans un immeuble, même dans une ville où tout essaie de vous tuer, un peu, en gros. C'est extrêmement anxiogène. La première partie du film, c'est vraiment ça. C'est lui qui... par des actions simples d'aller chercher je sais pas moi du shampoing, je crois que c'est même une bouteille d'eau au convenience store qui est juste en face de chez lui. Traverser la rue, c'est une épreuve parce que t'as des junkies partout, t'as la police qui tire, parce que enfin voilà, vraiment le côté hyper guérilla juste pour aller chercher une bouteille d'eau. Donc c'est vraiment une mise en image de ce que c'est que l'anxiété, d'avoir peur d'être dehors, d'avoir peur des autres et tout ça. Donc ça, c'est vraiment tout le début du film. Et en fait, donc ce personnage doit normalement aller visiter sa maman. Sa maman est décédée, ou elle est sur le point de décéder. Mais en gros, il doit entreprendre un voyage pour aller lui dire au revoir ou aller à l'enterrement. Et en fait, ce voyage va être l'enfer. Forcément, c'est Ari Aster, ça pouvait pas ne bien se passer. Où en fait, il va rencontrer sur son parcours que des gens qui, au début, on a l'impression qu'ils sont bienveillants et en fait, sont des monstres. Et c'est vraiment à chaque fois, ça montre un petit peu toutes nos anxiétés d'être humain, mais extrapolées à 100 000, quoi.
C'est un peu une adaptation live de Courage, le chien Froussard.
Oui, c'est exactement ça. C'est extrêmement bien résumé.
Je vous avais dit que j'étais pas sûr que c'était une bonne idée de reprendre ta belle lumière.
Voilà nos refs. Hein.
Mais
on est des trentenaires, oui. On l'assume.
Putain, j'ai oublié ce film. Je ne pourrais plus voir Bo Is Afraid. Oui, non, je pourrais plus voir Bo Is Afraid.
Je ne l'ai pas encore vu, moi. Mais pour le coup, tu vois, tu sais que je suis pas un Ari Aster fan.
Non.
Il me chauffe pas mal, Bo Is Afraid, tu vois.
Je pense... Après, je vois ses limites. Moi, après, j'aime bien ses parties pris, tout ça, mais il y a 2-3 fois dans le film où je me suis vue en disant « Oh, ça, ça va saouler les gens !» Et moi, je disais « Moi, j'aime bien, mais je vois comment les gens vont faire. Ah, ça, c'est relou !» Mais je sais pas, je trouve que ça fait partie de son charme. Et ce film-là, il est vraiment... Enfin, après, j'avoue que j'ai lu peu de choses autour du film, donc je sais pas en quoi c'est proche de son histoire à lui ou quoi, mais t'as vraiment l'impression... Parce que c'est aussi la première fois que c'est un personnage masculin qui est au centre du film, parce que Hérédité ou Midsommar, c'était quand même un personnage féminin. Mmh. Et là, il y a enfin, je sais pas, moi, je l'ai interprété comme ça, ou comme c'est vraiment un voyage initiatique, même pour un mec qui a la cinquantaine, tu vois, mais du coup, je l'ai un peu transposé à, il doit y avoir plein de choses de la vie d'Ari Aster dedans. Et du coup, t'as vraiment, ouais, je sais pas, ce côté voyage initiatique que moi j'ai trouvé super cool, et par contre c'est parsemé de moments d'horreur pure, mais du coup pas du gore, pas c'est pas du tout les mêmes peurs de Midsommar ou d'Hérédité, tu vois, avec le côté apparition, machin. Il y a tout un passage, c'est pas du tout un spoil, hein, mais il y a un moment où il a un accident et du coup il se retrouve hébergé par une famille. Et il y a ce côté où il a peur de déranger. Et je sais pas si vous, ça vous arrive quand vous êtes chez des gens que vous connaissez pas ou pas bien. Et ce côté genre, je veux pas me faire plus gros que je ne suis pour pas gêner les gens. Et en fait, il le transforme avec le talent qu'il a de metteur en scène en un truc où le moindre truc, Joaquin Phoenix devient un espèce d'insecte pour les gens qui habitent là, alors que c'est eux qui l'ont recueilli, tu vois. Donc c'est vraiment, ça joue sur ton anxiété en permanence. C'est hyper, c'était une séance pas facile à vivre. Je m'avais, j'étais genre, oh putain, c'est dur ce qui est en train de se passer. Voilà. Et à la fin, ça se barre complètement un truc fantastique. Donc ça, c'était cool aussi. Parce qu'il y avait une fin vraiment inattendue. Vraiment, pour le coup. Parce que j'ai jamais vu une salle réagir comme ça à un film d'Ari Aster.
Un truc, je ne sais pas si on a déjà discuté, parce qu'on sait que je ne suis pas grand fan d'Ari Aster, mais je t'ai déjà parlé des courts-métrages d'Ari Aster.
Non, je ne crois pas. Donc ça ne me dit rien, mais tu sais, je n'ai plus de mémoire, donc ça se trouve, on a déjà fait un épisode dessus.
Non, pour le coup, je les ai découverts après qu'on la pause d'Éteindre la lumière. Je trouve que ces courts-métrages, c'est des dingueries monumentales.
C'est lui qui a fait le court-métrage sur la famille Johnson ?
Un chef-d'œuvre.
Oh mon Dieu.
The Truth About the Johnson, c'est un court-métrage extraordinaire. Extraordinaire. Mais vraiment, je te le recommande chaudement. Sans trop en dire, peut-être le postulat de départ, c'est que ça se passe chez les Johnson, une famille d'apparence proprette, une bien belle famille.
Middle class.
Ouais, c'est ça. Et l'ado, dans sa chambre, il est en train de se toucher la nouille. Et on se rend compte que c'est sur la photo de famille. Voilà le postulat de départ.
OK.
Et ça part dans une direction de... Un peu ce que tu dis, en fait. C'est de l'horreur, mais sans artifice. C'est de l'horreur intime dans une vie de famille. Qu'est-ce qui serait horrible à vivre? C'est ça. Et il va te faire partir ça dans un truc psychologique horrible, dégueulasse, et sur 15 minutes de temps. Et je ne l'ai jamais trouvé aussi précis, efficace que là-dedans. Donc je suis un peu revenu sur ma hate Ari Aster, qui est que, putain, en court-métrage, il est trop fort. Il y a Munchausen aussi en court-métrage. Et il est trop fort en court-métrage.
Mais ce que tu décris, c'est ce que je préfère justement dans ces films, c'est que faire de l'horreur basée sur les traumas du quotidien et finalement plus sur ta relation avec les autres, parce que Midsommar, c'était exactement ça aussi, sur le deuil et sur le fait d'avoir quelqu'un... Enfin, moi, je l'avais interprété comme ça, mais sa relation avec son amoureux dans Midsommar. Et je trouve que là-dessus, il est vraiment exceptionnel d'arriver à transformer dans un truc... un peu fantastique, un peu voilà, et enfin je trouve que d'extrapoler autant les anxiétés des gens pour en faire des films d'épouvante, je trouve ça génial. J'ai profité, en fait, je me rends compte de ces trois ans, quatre ans dernières années pour faire plein de films que j'avais pas vus. Et du coup, j'ai une méga période 90s, mais j'ai aussi une méga période de faire un peu des classiques. Et grâce à Bruno, j'ai vu les Evil Dead tous le même jour.
Un beau jour. En termes de santé mentale, c'était un beau
c'était
jour.
C'était super. On a commencé, je crois, au petit-déj.
Petit-déj, Evil Dead.
Avec nos tartines et nos petits thés.
Un petit Bruce Campbell.
Et ça a été vraiment, vraiment l'éclate. Et je suis hyper contente de les avoir découverts. Même à cet âge-là, je me dis que j'aurais adoré il y a quelques années, ça aurait été cool. Mais de les découvrir aujourd'hui avec maturité, je fais des guillemets avec mes doigts, c'était vraiment cool. Et du coup, ça cause de la discorde parce que je préfère le premier Evil Dead au Evil Dead 2. Désolé, Joël.
Large,
mais sans comparaison. En regardant le 2, j'ai même dit à Bruno, genre, oui, moi bien, je suis là quand même.
En plus, on va pas se mentir, en regardant le 2, on a failli arrêter là.
Oui, c'est vrai.
Faut savoir que Evil Dead 2 n'est pas seulement mon Evil Dead préféré, mais il fait partie aussi de mon top 10 de mes films préférés de tous les temps.
Mais de beaucoup de gens, et c'est un truc dont on a discuté quand on regardait le 2, je fais, pour beaucoup de gens, Evil Dead 2, c'est genre dans le top 5 des meilleurs films d'horreur de tous les temps, c'est quand même une œuvre méga culte, et nous on le regardait, on fait... Oui, d'accord, vas-y, il fait des trucs, mais il se passe rien, quoi.
La naïveté du premier était bien plus touchante et bien plus agréable, en tout cas pour moi, que le 2.
Le 2 a les pires persos secondaires, enfin, ils sont horriblement nuls.
C'est un roast de Joël, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi je me sens mal?
Non, mais les persos étaient nuls.
Ouais, non, c'était pas ouf.
Oui, d'accord, on fait des trucs loufoques, mais il faudrait que ça raconte un truc à un moment, quoi. Genre, oh, regarde, elle danse. Oui, d'accord, oh, super. Vraiment, t'aurais passé un sale moment. Je vous raconte souvent l'anecdote de moi qui regardais Scott Pilgrim avec mon frère pour qui ça a été le pire film de l'univers. Je pense que si t'avais été avec nous au moment où on regardait Evil Dead 2, t'aurais vécu ça. T'aurais été en mode, je vais le buter.
Je me casse, je rentre à pied. La Bretagne, c'est
après,
pas loin.
Après, on a bien aimé le reste, on a continué les autres, tu vois.
Oui, non, franchement, le 3, c'était l'éclat total, même si c'est pas un Evil Dead, mais à part ça, c'était vraiment chouette. Et même le reboot, après.
Pas si mal. Perso principal, horrible
oui.
À chier.
Non, elle est formidable.
Mais en fait, c'est un perso secondaire. Oui. Alors que quand on a lancé le film, on se dit, ah oui, c'est vrai, c'est elle, la perso principale. Pas du tout, c'est son frère. Et
non,
son frère, on
son frère tout pété.
Je me rappelle même pas de son frère.
Et ben, c'est le perso principal du film.
Lui et sa copine, je sais pas quoi. Mais elle était super.
Ouais.
Franchement.
Non, pas Jane.
Si, l'actrice.
Ouais.
L'actrice, c'est Jane Lynch ou un truc comme ça. Non, Jane Lynch, c'est la meuf de Glee.
Jane Levy,
c'est ça.
Oui, elle jouait dans Suburgatory.
T'avais d'autres films dans ton revival 90, 80
J'en ai plein, mais on va peut-être passer à vous, on parlera des miens.
Genre ton top 3 de ce que t'as vu.
Pas forcément des tops, mais en tout cas des films que j'ai vus et que j'ai bien aimés. Et je pense que c'était des films que j'avais maté genre super longtemps, parce que mes parents étaient fans de cinéma, donc on avait 1000 cassettes enregistrées.
1000 vraiment?
Bah franchement pas loin.
On peut les compter?
Alors,
on les a Bambi. Plus. Mais alors, c'était, tu sais, dans des ils avaient même des pochettes en mode faux livre. Du coup, on avait une télé dans un grand meuble avec des espèces de trucs. En fait, c'était des vidéos dedans, mais ça faisait comme des folies.
J'ai jamais vu ça, ça a l'air sympa.
C'est vrai? Je vous montrerai après en photo. Et du coup, non, je suis vraiment partie sur du classique que j'avais jamais vu, genre Jeune fille recherche un appartement, que j'ai trouvé super cool. Sleepers, sacré casting aussi, avec Brad Pitt, De Niro, Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Kajun qui parrainette Vertan, ils font une grosse connerie, ils tuent quelqu'un un été, mais c'est des mineurs, donc tous les quatre, et ils sont envoyés en maison de redressement, où Kevin Bacon est le chef des matons, quoi. Et où, en fait, pendant un an, ils vont subir des sévices sexuels super, super, super durs. On ne voit jamais rien à l'écran, mais du coup, tu sais qu'ils ont été bien traumatisés. Et donc, 20 ans plus tard, 20 ans ou 15 ans plus tard, en gros, sur les quatre, il y en a deux qui sont devenus un peu chefs de gang et qui recroisent Kevin Bacon et qui le butent. Okay. Et en fait, c'est toute l'histoire du procès.
C'est une comédie, non?
Absolument. Voilà. Il y a Will Ferrell aussi. Ouais. Mais c'est un très grand film. Et oui, le casting est vraiment super cool. Et je ne sais plus qui l'a fait, ce film-là. Mais
Max Pécas.
Mais oui, je suis plus partie sur du revival un peu polar ou genre l'affaire Pélican aussi. Que
Folie à la prison d'Alcatraz de Max Pécas.
Ce serait Alcatraz en folie.
Excuse-nous, Rie,
c'est
tu
pas
disais...
grave. Non, rien.
Non, c'était quoi les derniers films que tu disais?
Rien, c'est bon.
Si, elle a dit l'affaire Pélican.
Ah oui, ah, les films de tribunal, les films de procès.
Ouais,
des années 90,
ben ouais, mais mine de rien, il y a des bonnes scènes. Mmh. C'est du bon thriller, je trouve. Et il y a un côté un peu vintage que je trouve qu'il n'y a plus trop dans le thriller d'aujourd'hui.
Il y a une période au début des années 90 où il y a plein de films de.
Bah c'est
de
du procès. John Grisham, c'est tout ça, ouais. C'est le client. Celui-là, là.
Le Primal Fear.
Oui.
C'est tout, c'est.
Non, non, si, c'est vrai, oui.
Vous me regardez en mode, c'est quoi la blague, j'ai pas compris. Mais
non, mais oui, aussi, bah, celui-là aussi, je l'ai revu avec Edward Norton, qui était cool. Et Le droit de tuer aussi, avec Matthew McConaughey et Samuel L. Jackson.
C'est pas un James Bond, ça? Droit de tuer?
Permis de tuer.
Permis de tuer, oui. C'est pas la même chose.
Ah non. C'est pas le même sujet non plus.
Avant permis de tuer, tu dois passer le code de tuer.
Voilà, c'est le droit de tuer. Et vous, du coup? Enough about me.
Je suis allé au ciné la semaine dernière.
Oh, le plot twist.
Oh mon dieu.
En fait, le mec va au cinéma.
Toutes les semaines, alors, il va au cinéma. Ben non, mais je me force un peu à aller au ciné parce que moi, je vis seul. Je connais pas grand monde dans ma ville. Donc, si je fais pas des activités pour moi, bon, bah, je fais rien. Et donc, ouais, je suis allé au ciné. Et je suis allé voir un film français vraiment chouette. C'est Le règne animal.
Je l'ai vu passer beaucoup sur les réseaux des gens.
Film fantastique français, avec Romain Duris et un jeune acteur dont, si j'avais fait mon travail, ben genre, oui, on sait que t'aimes pas Romain Duris, on a eu 5 saisons d'Éteindre la lumière, on l'a entendu. Moi, j'ai le problème que j'ai vraiment grandi avec Romain Duris, donc j'ai ce truc de, je peux pas le détester. Gamin, pour je ne sais quelle raison, je bouffais les clapiches avec Duris en permanence. Genre, je les regardais tout le temps.
Okay.
Donc moi, j'ai vraiment grandi avec Duris et je n'arrive pas à détester Duris parce que, voilà, ça fait 25 ans que je regarde le film avec Romain Duris, quoi. Peut-être pas 25 ans, à 5 ans, je regardais peut-être pas L'Auberge espagnole, tu vois. Et donc, j'ai pas travaillé, donc j'ai pas le nom des acteurs, rien du tout. Et en fait, Le règne animal, donc c'est un film fantastique français qui raconte l'histoire d'un père et d'un fils qui, son épouse, donc la mère du gamin, en fait, est une mutante. A muté, est à l'hôpital, parce que ça se passe dans un monde qui est quasi identique au nôtre, sauf qu'il y a une épidémie de mutation. Très X-Men, un peu dans l'ambiance, quasi, tu vois. Et c'est une mutation qui transforme les humains en une sorte d'hybride humain-animaux. Et donc, la mère du gamin, je vais garder, parce que si je commence à faire la mère slash épouse à chaque fois, ça va être compliqué. La mère du gamin est envoyée dans le sud de la France, dans un centre de traitement, on va dire, mais qui est quasi centre de détention de ces mutants. Et le camion qui transporte justement... sa mère va avoir un accident et elle va être perdue dans la nature, donc dans le sud de la France, et donc ça va être à la fois le récit de cette quête pour retrouver sa mère et le gamin qui va commencer à se dire, si ma mère elle est mutante, est-ce que moi aussi je vais muter? Et c'est un super film, c'est vraiment un super, en fait j'ai vraiment eu ce truc de putain, c'est quand la dernière fois que j'ai vu un film français fantastique fait avec autant de sérieux, d'envie et d'ambition. J'avais un peu peur en allant le voir qu'on... Un truc qu'on fait souvent en France quand on fait un film fantastique, c'est que c'est aussi un film social, souvent. Alors, ça raconte un petit peu des choses, on va dire, quand même, d'un point de vue sociétal. Ça reste quand même un film fantastique. Ça reste quand même une quête de... on va découvrir de plus en plus de mutants. C'est un film qui a pas peur d'avoir plein de créatures. Il y a plein de créatures dans le film. On se dit, putain, c'est généreux en termes de créatures. Alors, on passe pas forcément 25 minutes avec chaque créature, certes. Il y en a qui sont là le temps d'une scène. Mais juste pour une scène, ils se sont fait chier à faire un homme poulpe, tu vois, dans un supermarché qui est en train de bouffer les poissons dans le Intermarché local, tu vois, et qui va s'enfuir parce que il y a la police qui arrive, tout ça. Et vraiment, je suis sorti de là en disant, mais putain, c'est quoi le dernier film fantastique français que j'ai vu fait avec autant de sérieux? Et j'ai eu du mal à trouver un exemple. Ce qui m'a vraiment amené à me dire, putain, là, je crois que je viens de voir un truc un peu à part et auquel j'espère beaucoup de succès. Je sais pas comment s'en sort le film. J'ai l'impression qu'on en parle déjà plus. Alors, au moment où on enregistre, ça fait peut-être 2-3 semaines qu'il est sorti.
Oh non, moi, au contraire, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'échos.
Ah, il y a eu des très bons échos, mais je sais pas si le film marche particulièrement. C'est ça mon truc. On n'a pas bossé, hein. C'est le retour d'Éteindre la lumière. C'est comme avant, on ne branle rien. Pourquoi vous nous écoutez? Pourquoi vous nous écoutez? Voilà. Et
pour nos charmantes personnalités.
Oui, évidemment. Moi, je suis très charmant. C'est vraiment le premier mot qui est sur ma bio Tinder, c'est charmant. En gros, c'est un super film, quoi, concrètement. Il a un défaut majeur qui peut un peu être tourné en qualité. si on veut vraiment un peu étirer le truc, qui est que là où le film s'arrête, t'es un peu frustré. Et t'es en mode, putain, j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie de continuer d'être senti dans cet univers, de savoir qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là. Quand ce truc arrive là, qu'est-ce que ça déclenche dans les villes alentours? Qu'est-ce qui va arriver à tel ou tel personnage? Donc, c'est à la fois un défaut et en même temps, tu dis, putain, c'est quoi le dernier film français que j'ai vu où je me dis, ah, donnez-moi une suite, je veux savoir ce qu'il arrive à ces persos, quoi. Alors, c'est un défaut comme une qualité, mais c'est quand même un gros défaut parce que j'ai tilté ça après coup. Il y a des personnages qui n'ont pas de conclusion à leur arc et bizarrement, c'est les personnages féminins du film. Vraiment, je me suis dit, c'est marrant que les deux persos féminins majeurs du film, bah, il n'y a pas de fin à leur arc. Et t'es en mode, est-ce que c'est parce qu'il y a des trucs qui ont été coupés? Est-ce que c'est parce que c'est moyennement bien écrit, ces personnages féminins, tu vois? Je me suis dit, c'est très bizarre, ce truc-là. Donc c'est quand même un peu un défaut, ce truc de frustration dans l'écriture, tu vois? Tu te dis, c'est peut-être aussi un truc qui est pas 100% maîtrisé non plus, quoi. C'est pas, il y avait peut-être un aspect pour donner un peu envie d'une suite si jamais. D'ailleurs, je verrais ça vachement plus peut-être en série télé qu'au cinéma, je sais pas. Je laisse la porte ouverte comme ça. Genre on nous écoute dans les grands milieux.
Genre, t'as du poids dans...
Donc, tu te dis, c'est un peu pour donner envie.
Félix Moati, si tu nous écoutes encore.
Bah, ouais, mais il n'y a pas Félix Moati dans le film.
Non, bah, c'est le seul peut-être qui pourrait nous...
D'accord. Oui, bien sûr.
J'étire un peu.
Et donc, ouais.
C'est un premier film?
Non, parce que c'est le réalisateur des Combattants.
Ah, avec Adeline.
Ouais, ah, je l'ai vu cette année, celui-là.
Et ben, c'est le réalisateur de ce film-là.
Ok.
Un film aussi qui part dans un petit côté fantastique à la fin, mais pas trop, mais en même temps, on sait pas trop.
Et ben là, c'est beaucoup plus dans le versant fantastique quand même. La première scène, c'est littéralement le père et le fils dans la voiture, et en gros, y a un bouchon, et je m'attendais pas à ce qu'on voit une créature aussi vite dans le film, tu vois, et en fait il y a une ambulance dans le coin et ça commence à secouer machin, le classique, hein. Attention, il y a quelques séquences où tu fais ça, emprunte quand même vachement au cinéma américain fantastique, tu vois, donc ce truc de l'ambulance et puis la créature qui s'échappe de l'ambulance et c'est un truc avec des ailes et tout qui s'envole et tout, un peu cool, quoi. Et donc ça verse directement dans le fantastique. Et donc oui, c'est ce réalisateur-là, et tu sentais avec Les Combattants une petite envie. Alors ça part pas full versant fantastique, hein, Les Combattants, mais tu sentais déjà une envie. C'était un film que j'avais vu au ciné déjà, Les Combattants, parce qu'il y a eu des très bons échos sur... Attends, il y a ce gars-là qui a envie de faire un truc un peu atypique dans le cinéma. Enfin, pas excessivement atypique, mais qui a envie de tenter un truc. Et là, je trouve qu'avec Le Règne Animal, il est parti à fond dedans, quoi. Et je me suis vraiment dit, trop cool. Alors... Je citais là le fait qu'il y ait des clichés un peu rien, tu vois, ce truc de la scène d'intro, faut que ce soit un peu une scène, c'est pas une scène d'action, il y a pas vraiment de scène d'action dans le film, mais en tout cas une scène où on dévoile une créature et machin pour montrer l'univers. Il y a le stéréotype de la flic locale qui est frustrée parce qu'il y a un truc plus national qui vient prendre l'affaire, tu vois, ça c'est typique des trucs ricains avec
FBI, avec on prend l'affaire,
le shérif et le FBI, il y a ça dans le film, tu vois. Mais pour autant, je trouve qu'il a réussi à faire un film fantastique français qui s'imprègne de codes. J'ai pas eu l'impression d'avoir un film. J'ai pas vu Les Trois Mousquetaires. Toi, je sais que tu l'as vu. L'impression que m'a donné la bande-annonce des Trois Mousquetaires, et qui est aussi une des raisons pour laquelle je l'ai pas vu, la première étant que j'en ai rien à foutre des Trois Mousquetaires, c'est que j'ai eu cette impression de nous aussi, on va faire comme les ricains. Le Règne Animal, c'est pas du tout le cas. Le Règne Animal, c'est pas du tout le cas. Un des lieux principaux, on va dire, où se passe Le Règne Animal, c'est genre une petite buvette, pas de camping, mais de petit village, tu vois, qui doit servir un peu de guinguette les week-ends et tout ça. Ça, c'est un des lieux principaux du film, tu vois. Un des lieux principaux du film. En fait, il y a des codes très français. Ils font une fête de la Saint-Jean, tu vois, comme tout ce qu'on fait dans le sud de la France. Il y a tout un arc autour de la fête de la Saint-Jean qui approche et tout ça. Et je trouve qu'il a réussi à se dire, non, moi, j'ai fait un film fantastique avec des codes de France, des trucs qu'on connaît en France. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il part pas dans une grande grandiloquence. Tu vois, il cherche pas à partir dans une grande grandiloquence. T'as pas une grosse scène d'action. T'as une scène un petit peu Le Monde Perdu de Spielberg. Je pense que la référence est ouverte. Enfin, elle est volontaire. Tu la vois, tu fais, c'est un peu Le Monde Perdu, cette scène. Mais t'as rien d'ultra grandiloquent, t'as pas un gros affrontement entre les mutants et la police, t'as rien de tout ça. Spoiler, c'est beaucoup plus calme. J'ai vu des gens sur Twitter un peu râler en disant « Ouais, c'est un peu chiant votre film et machin ». Bah, non, parce qu'en fait, c'est juste que ça cherche pas à être un film d'action fantastique. C'est pas X-Men, quoi. Il y a plutôt une réelle poésie dans les créatures. Les make-up sont vraiment superbes. Il y a un amour de la créature dans le film qui fait trop du bien de se dire, putain, on a quelqu'un en France qui s'est dit, je vais faire un film avec des créatures, et mes créatures, elles sont belles, elles ont une élégance, les créatures. Alors, je sais qu'ils ont travaillé avec un mec qui fait de la BD, j'ai oublié son nom. On n'a pas bossé, je vous rappelle. Mais au niveau des storyboards, tu vois, histoire d'avoir déjà un truc un peu stylé en storyboard pour dire, voilà, on va faire un film beau, beau, élégant, avec des belles créatures. Le dernier point sur lequel je veux insister, c'est l'ado du film. Donc, il joue face à Duris. Moi, j'ai bien aimé Duris dans le film, mais je sais que si je le dis, là, j'en ai deux qui vont me frapper. Mais j'ai bien aimé Duris dans le film. L'ado, c'est la première fois que je vis un truc dans un film que je comparerais au syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'en fait, au début du film, je trouvais qu'il jouait épouvantablement mal. Et à un moment, je me suis dit, non, je crois qu'il joue très bien. Parce que je crois qu'il joue très bien l'ado. Il joue très bien le... Putain, il est relou, quoi. Il est relou dans sa façon de parler, dans son attitude. Il commence les films, il bouffe un paquet de chips. J'étais en mode, mais gars, t'as pas autre chose à foutre que bouffer des chips en mode porcasse, en mode, je mange des chips, tu vois. Et même dans son phrasé, il est désagréable à écouter tout ça. Et à un moment, je me dis, mais non, je crois qu'en fait, le gars, il est hyper fort. Je crois que le gars, il joue parfaitement l'ado mal dans sa peau, qui te met mal à l'aise dès qu'il parle. T'as pas envie d'avoir une discussion avec lui parce qu'il te saoule direct. Et puis l'ado qui se pose des questions par rapport à des potentielles mutations. Il joue un peu sur ce côté, j'ai les poils qui poussent, tu vois. Est-ce que c'est normal tout ça? Et il se demande, à un moment, il se demande, ok, est-ce que je me transforme? Si je me transforme, j'ai l'impression que je suis en train de me transformer en labrador, j'ai pas envie de me transformer en labrador, j'ai envie au moins d'être un animal cool. Et j'ai fini le film en disant, non, en fait, il était super, ce gamin. Donc, je préfère prévenir, si vous voyez le film, que vous le trouvez nul, le gars. Non, au final, il est peut-être bien. En fait, il faudrait le voir dans un deuxième film. Et si dans le deuxième film, il joue pareil, bon, là, il y a
certainement... Il faut se poser des questions.
Mais je trouve que pour le rôle qu'il a dans ce film, il est superbe. J'ai vraiment... À un moment, j'étais fasciné par son jeu. Non, mais des fois, il fait de ses tronches, mais vraiment la tronche de l'ado que t'as l'impression de saouler. Tu vois, t'es en train de lui parler, il est comme ça. Ouais. Et des fois, c'est dans des scènes un peu importantes du film, et tu fais, mais la gueule qui tire, l'autre. Et après, tu te dis, mais non, c'est un ado. C'est un ado, des fois, tu essayes de l'intéresser d'un truc, il va te regarder, on bat les couilles. Donc voilà, donc le règne animal, j'ai trouvé ça super, et je recommande, et j'espère vraiment... j'ai envie de découvrir un peu plus cet univers, donc j'espère que d'une manière ou d'une autre, il y aura une suite à ce très beau film.
Tu sais quoi, tu m'as presque tenté d'aller voir ce film.
Ouais.
Enfin, en tout cas, le voir, je vais pas aller le voir.
Puis déjà, bon,
je vais attendre qu'il vienne à moi.
Il aime vraiment un truc, tu vois, je me dis, hé. Quality.
Alors ça, j'en ai marre. Réputation de Bruno n'aime rien. C'est peut-être un truc qu'on va peut-être aborder. C'est ce point, Bruno n'aime rien. J'ai envie qu'on débatte là-dessus. Vraiment, j'aime rien. C'est juste que j'aime pas les mêmes choses que vous.
Je pense que t'es devenu très difficile. Tu l'as dit toi-même.
Moi, je pense pas parce que je regarde beaucoup de choses. J'ai toujours cette même curiosité. J'ai la curiosité.
Oui, mais je pense que t'aimes moins de films qu'avant, non? C'est pas une critique, hein, c'est comme ça, c'est pas grave.
Je sais, franchement, je sais pas. Je saurais pas. Je t'avoue que je quantifiais pas ma manière d'apprécier les films, quoi. Mais non, j'aime plein de trucs. Genre, ouais. J'ai vu le Gondry, j'ai bien aimé le Gondry. Il m'a flingué
putain,
le moral.
Il a vu plein de films au cinéma, mais t'es
mais,
trop
mais,
mytho.
Mais non, mais ça fait 2-3 mois que je retourne au ciné.
D'accord.
En me disant... mais en fait, c'est vraiment un truc psychologique de... je travaille en télétravail. Donc, si je ne me force pas à sortir, je peux ne jamais sortir. Je peux. Mm-hmm. Je peux ne jamais sortir. Donc, à un moment, je me suis dit, ben, c'est con, j'aime le ciné. C'est cet été qu'on a parlé du retour d'Éteindre la Lumière. On me dit, on a envie de faire revenir Éteindre la Lumière. Là, en plus, j'avais envie de soutenir une forme de cinéma français qui me plaît à moi. Tu vois, je suis pas allé voir, je sais pas, la dernière comédie de Danny Boone, je suis pas allé la voir en salle. Là, il y a deux futurs films français, là, que j'ai envie d'aller voir, qui sont aussi des tentatives de films de genre.
Mais non, ça me fait ça. Je l'ai pas vu en salle le dernier Danny Boone. Ça veut dire que tu l'as vu
non,
chez
non,
toi.
Non, je l'ai pas vu. Alors, sachez que j'ai regardé des films français à chier, mais chez moi, quoi. Parce que j'ai envie de savoir aussi ce qui se fait dans mon pays. Mon pays de...
Magnanime.
Non. Mais en fait, je fais le déplacement. Alors, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que bah, j'ai un ciné qui fait que de la VF, principalement. Des fois, il y a une séance VO. C'est hyper rare. Mm. Mais sinon, il fait que de la VF. Donc, tant qu'à faire, je vais aller voir des films français. Et tant qu'à faire, je vais aller soutenir des films que j'ai vraiment envie de soutenir, ne serait-ce que pour la démarche. Je suis allé voir des trucs que j'ai pas aimé, mais j'y suis allé pour dire, ben, c'est ça que j'ai envie de voir en France. Des trucs où on a envie de proposer autre chose que des gens qui dînent autour d'une table. Il y a des scènes de dîner dans Le Règne Animal.
Génial.
Bon, ça arrive. Hein. Mais
ça reste un film français.
Mais de se dire qu'on a envie de proposer une nouvelle démarche. Là, prochainement, je sais pas ce que le film va valoir. Je sais qu'il y a Vincent doit mourir, que je veux voir. Qui est aussi notre tentative, on va dire, de film de genre. Si j'ai bien compris le pitch, c'est un mec qui s'appelle Vincent. Et un jour, il y a tout le monde sur Terre qui veut le buter. Il sait pas pourquoi. Et il se fait poursuivre par des gens. Il paraît qu'il y a une scène d'action hyper cool. Machin. Enfin, les échos sont bons. Je sais pas ce que va valoir le film. Mais ça, je sais que s'il sort en salle dans ma ville, je vais évidemment y aller pour soutenir cette démarche.
Il est déjà sorti, Acide, ou pas encore ?
Il est sorti, mais j'ai eu des bons échos et des très mauvais échos. Donc, et pour le coup, je crois qu'il n'est pas sorti ici. Ah. Mais Acide, j'y serais allé, tu vois.
Oui, ouais.
Acide, pour la démarche de dire, venez, on tente des trucs. Mmh. Et moi, ça, j'aime bien. Le Gondry, j'y suis allé juste parce que c'était Gondry. Et parce que c'était un film personnel qui m'a flingué le moral. De me rendre compte que Gondry, il est malade depuis toujours, peut-être, tu vois. Et que c'est un film où il dit, ben en fait, je vais pas bien. Et que si mes films sortent, c'est grâce aux gens qui travaillent avec moi.
Mmh.
C'est vraiment le propos final du film, c'est ça. C'est si mes films sortent, c'est parce qu'il y a des gens qui font leur taf. Et parce que moi, je peux parfois être incontrôlable. Je ne sais pas me canaliser, je ne suis pas capable de toujours faire gaffe à moi, aux gens. Il y a tout un... Alors, moi, il y a un truc qui me perturbe, un peu le point Fleabag du truc, c'est, pour beaucoup de gens, c'est une comédie, pour moi, je fais, ouais, pas trop. Et j'ai un peu ça, moi, avec donc, le livre des solutions, le dernier Gondry, parce que il y a un gag récurrent qui est le fait que t'as la monteuse de son film dans le film, qui est jouée par Blanche Gardin, et un des trucs, c'est qu'elle note les gens à qui il doit s'excuser. Et c'est un peu montré comme un gag, en mode, ah ouais, là, t'as été con avec un tel, je note son nom, tu vois. Je fais, c'est pas un gag, je pense que c'est aussi un truc que Gondry vit, de se rendre compte que il a été une merde avec un tel, une merde à ce moment-là. Des fois, il fait chier les gens juste pour une scène, pour un truc, pour machin, sans se rendre compte que, en fait, t'es en train de faire chier tout le monde, quoi. Et donc, c'est un truc qui m'a déprimé. Je me dis, donc en fait, les films de Gondry, depuis toujours, ça doit peut-être se passer un peu dans comme ça, quoi, ces films. Et ce film, je trouve que c'est un peu un témoignage de putain, si ces gens étaient pas là, mes films sortiraient jamais. Donc, c'est un film qui m'a plombé le moral. Voilà. Joël, peut-être, on a tous un peu fait un film, un truc.
Je suis en train de regarder sur Letterboxd. Ce que j'ai vu ces trois dernières années.
On a des comptes Letterboxd, on peut faire nos pubs pour nos comptes Letterboxd. Hein.
Ouais, on peut le faire.
Ah, vous serez pas déçus.
Puisque parfois, on parle pas... Enfin, on voit quand même plus de films que ce qu'on parle dans Éteindre la lumière. Donc si des fois, vous dites, tiens, Bruno ou Aurélie ou Joël a pas parlé de ça, peut-être c'est parce qu'on a mis une étoile sur Letterboxd. Moi, c'est fort probable.
Après, notre envie, ces dernières années, enfin, avant qu'on arrête, enfin, on mette Éteindre la lumière en pause, c'était d'arrêter de parler des films qu'on n'aime pas. Quoi.
Ouais, moi, c'est un truc sur lequel j'ai envie qu'on perdure. Yeah. C'était un gros débat que j'avais lancé sur la question du retour des dindes et la lumière, qui est, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, pas mal en France, dans le podcast, les vidéos YouTube, tout ça, autour du monde du ciné, ce qui fonctionne, c'est être extrême. C'est-à-dire, soit j'adore... Soit c'est le pire truc de la Terre, c'est woke, j'en sais rien, là. Mais si, non, mais tu vois le genre de connard, quoi. Tu vois le genre de profil. Et nous, je crois qu'on va être dans la modération. Et il y a vraiment eu ce truc où je me suis dit, Mais vous croyez que les gens, ils vont aimer qu'on arrive en disant « Bah, nous, on a bien aimé ça
!» pour notre santé mentale, d'arriver devant un micro et dire « Ah, ce film est une merde, c'est inconcevable qu'on fasse des films comme ça !»
Qui on est pour dire ça?
Non, mais c'est clair, quoi. Enfin, j'ai juste envie de parler de cinéma avec mes potes et qu'on passe des bons moments, pas de...
Et encore, on parle ciné parce que...
Pas d'arriver avec mon gros cerveau et dire « Ouais, je sais mieux que tout, et ce film est à chier, et faut pas aller le voir, et dedans, la princesse Peach, elle fait des trucs, donc c'est woke. » Non, mais vos gueules, quoi, putain. Du coup, bah, je pense que je vais pas parler de beaucoup de films. Je survole un peu ce que j'ai vu ces dernières années, dont on n'a pas, qu'on n'a pas du tout abordé. J'ai vu Tenet de Nolan. Je mentionne Tenet parce que il s'est passé quelque chose avec Tenet avant qu'on disparaisse. Ce n'est pas la raison de notre disparition, mais ça aurait pu être.
Mais je sais pas si nos auditeurs en sont conscients, mais le truc c'est, est-ce qu'on veut le formuler verbalement et recevoir des courriers, un procès et tout? Je ne sais pas. Mais dites-vous qu'à un moment, il s'est passé un truc entre Éteindre la Lumière et Tenet.
Et la Warner.
Et la Warner, et qu'on a reçu des mails de la Warner et on a failli avoir des problèmes. Mais...
peut-être qu'on n'a jamais failli avoir de problème, que c'était dans nos têtes parce qu'on avait des gros anxieux de la vie.
On avait quand même les...
On a eu des mails officiels.
On a quand même eu les coordonnées.
Oui.
Direct des big boss de Warner. Hein.
Enfin, du service légal.
Oui, bah, pour moi, les services légaux des majors, c'est quand même des gros big boss. Hein. Donc, voilà. Donc, Tenet. On a vu Tenet.
J'ai vu Tenet. C'était sympa, mais sans plus, en fait. J'ai pas trop quoi rajouter.
Ce qui est bien, mais pas top.
Ce film est bien, mais pas top.
C'est un bon résumé de notre podcast. Voilà.
Non, je pense que ce qui était surtout très sympa dans ce film, c'est de voir à quel point Robert Pattinson pouvait être un bon Bruce Wayne.
Qu'on réapprenne à parler dans le micro.
Oui, c'est vrai. C'est qu'on voyait plutôt bien dans ce film que Robert Pattinson allait être un bon Bruce Wayne.
Il peut tout faire.
On a vu des Pixar, on a vu... J'ai pas envie de parler des films d'ici parce que c'était une catastrophe, c'est les derniers.
Mais t'es pas obligé de parler de films si tu ne veux pas parler de films.
T'as vu
mais
plein
oui,
de séries.
J'ai
fait une période de séries et moi, ça, je vais en venir à un point. Parce que je crois que je connais Joël depuis 13 ans maintenant. Et pour moi, Joël, c'était monsieur... Il va me dire c'est pas vrai, mais c'est quand même un peu vrai. Monsieur, je regarde surtout des trucs à éléments fantastiques, science-fiction...
Oh ben, oui, clairement, oui.
Voilà. Et ces derniers temps, grosse surprise, un jour, Joël m'envoie... Tiens, j'ai commencé Succession.
C'est surtout ma partenaire de vie qui m'a un peu poussé à regarder ce
mais
genre
ouais,
de série.
Je pense qu'en fait, en termes de... Je parlerai pas de curiosité, parce que c'est peut-être pas ta curiosité, c'est la sienne, mais ça t'amène à regarder des trucs que t'aurais pas regardé forcément de base.
Oui, oui.
Ça t'ouvre un nouveau pan de possible. Donc, je sais que récemment, t'as regardé Succession, je sais que t'as regardé Normal People, qui ne sont pas des séries où il y a beaucoup d'éléments fantastiques, on va pas se le cacher, qui sont des séries avec beaucoup de gens qui parlent dans des pièces. Et je voudrais savoir...
L'élément fantastique de Succession, c'est qu'à la fin...
Don't do it.
Je voudrais savoir, bah, justement, ce que t'as pensé de ton de ce cheminement dans le réalisme.
Je pense que ce qui est très clair sur cette série, c'est que je suis en train de me dire, mais qui
très clair déjà.
Qui suis-je pour parler de Succession? Qu'est-ce que je vais rajouter de plus que ce qui a été dit mille
mais,
fois?
Mais c'est justement, c'est, et puis ça reste un avis de dire, bah oui, bon, bah c'est bien.
Mais l'écriture est constamment excellente dans chaque épisode. Il n'y a aucun épisode où t'as pas de sensation de filler, d'épisodes qui sont là juste pour passer le temps en attendant qu'il y a un vrai épisode qui arrive par la suite.
Succession qu'on peut contextualiser grossièrement sur le fait que c'est une major américaine tenue par la famille Roy.
C'est la Fox, mais c'est pas la Fox.
Oui, grossièrement. Et suite à des états de santé qui sont un peu défaillants...
Du patriarche de la famille.
Ça commence à se dire, bah, y a peut-être quelqu'un qui va prendre la succession. Littéralement.
C'est le titre de la série.
Je mettais un contexte, il y a peut-être des gens qui ne voient pas du tout de quoi on parle.
Oui, c'est un peu Game of Thrones et Arrested Development qui ont un bébé. Et c'est Succession.
Je te rappelle que ma théorie par rapport à Succession, c'est que pour les gens de droite, c'est un drame. Pour les gens de gauche, c'est une comédie. Et c'est pour ça que c'est une série où on peut tous se réunir dessus.
C'est clair. C'est clair. Et donc, ça part, il y a beaucoup de dramas familiaux, de dramas politiques, de dramas autour du business familial. Et c'est drôle, c'est vraiment déprimant par moments. Il y a des choses qui touchent vraiment de très près ce qui se passait à ce moment-là dans la politique américaine. Il y a, je vais pas redire plus, mais il y a tout un épisode sur les élections américaines et j'étais énervé pendant une heure parce que c'était tellement près de ce qu'on avait. Et on peut s'imaginer que c'est comme ça que ça se passe à Fox News, par exemple. Tous les acteurs sont excellents. Je vois aucun acteur ou une actrice de la série qui était mauvais. Vraiment, l'écriture de chaque personnage, l'écriture de tous les épisodes, c'était vraiment très bon du début à la fin.
J'ai une vraie question. Est-ce que c'était ta première série pour adultes, tu dirais?
je vais lui péter les genoux.
Tes branches sont micro.
Non, plus réalistement, est-ce que c'était ta première série, on va dire, de gens qui parlent dans des pièces, quoi? Non, mais concrètement. Pour moi, t'es Monsieur Fantastique, t'es Monsieur, c'est pour ça,
J'ai envie de dire oui et non, parce qu'il y a des séries, je me rappelle avoir regardé Life on Mars, qui avait beaucoup de scènes de dialogue, mais il y avait quand même
Il y a quand même un élément de voyage dans le temps,
Mais c'était beaucoup de scènes de dialogue aussi.
Donc après Succession, c'est juste après que tu as regardé Normal People ou pas?
Non, on a terminé d'autres séries qu'on avait commencé avant ça. Non, après on a enchaîné sur Normal People, donc une série irlandaise
avec le cast le plus beau du monde.
Ah, ça c'est clair. Non, c'est vrai.
Non, mais ça, moi, Normal People.
Qui passent leur temps à dicher Daisy Edgar Jones en moche, c'est la moche du bahut.
mais de
trop
quoi
belle.
vous parlez?
Alors, Normal People, qui est. J'essaye de contextualiser Normal People. Ça commence avec un peu, on va dire, une déviation autour du cliché du sportif du lycée et de la nerd du lycée qui vont vivre une romance adolescente. Et on va suivre ces personnages sur 15 ans, 10 ans,
oui.
10 ou 15 ans.
Ouais.
J'aurais pas dit autant. J'aurais dit moins que ça, période...
Ils finissent leurs études après.
Parce que... Ouais, mais c'est pas long, les études.
Ouais, je sais.
J'arrive...
10 ans, peut-être. J'arriverai pas à dater.
J'aurais dit 5 ans, tu vois.
Non.
Bon, années.
Voilà.
Donc avec Paul Mescal et Daisy Edgar Jones, qu'on risque de revoir pendant 20 ans maintenant.
Mm-hmm.
On commence tous les deux à tourner pas mal ces derniers temps. Et donc oui, qu'en as-tu pensé de cette série Feel Good?
Je suis jamais autant énervé sur des personnages principaux, sur toute la série, avant qu'ils me fassent chialer dans le dernier épisode.
Moi, le dernier épisode m'a ravagé. Je ne pouvais plus parler que de Normal People aux gens, parce que je me suis dit... Oui, mais en fait, la vie, c'est à chier, quoi.
C'est pendant tous les épisodes, c'est... Mais parlez, bordel, dites-vous des mots, arrêtez de claquer des portes et de partir parce que vous comprenez pas, dites ce qui se passe.
C'est exactement ça. Pour moi, Normal People, c'est une série sur l'absence de communication.
Ouais, complètement.
Et en termes d'œuvres de fiction sur le sujet, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à ce niveau de Normal People, je trouve.
Et ce qui est très énervant, parce que ces deux personnages, tu le vois dans chaque épisode, qui sont faits l'un pour l'autre, et à chaque fois il se passe des choses dans leur vie qui font qu'ils doivent se séparer, qu'ils doivent partir en colère ou ne pas se voir pendant des mois et des mois avant de se retrouver et de recommencer le même cycle de...
Ce qui est marrant, c'est que pitché comme ça, on pourrait croire que c'est un peu les feux de l'amour. Tu vois, un soap qui dure depuis 30 ans, les gens se tournent autour.
En plus, c'est une série qui parle aussi de l'anxiété, du bullying dans les écoles aussi, des abus dans les familles aussi, enfin, de plein de choses. Ça parle très bien de la santé mentale des gens.
La musique est magnifique.
La musique est magnifique.
L'alchimie des deux est hallucinante.
Ouais.
Et c'est vrai que j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Normal People, sauf je pense à une en particulier qui nous écoute d'ailleurs sur le podcast. Donc mon amie Julia, qui elle m'avait dit qu'elle avait eu du mal avec Normal People parce qu'elle ne comprenait pas, enfin elle aimait pas les histoires donc d'amour, mais qui sont basées sur juste de l'attraction physique. Et c'est vrai que quand je l'avais revue après qu'on ait discuté de ça, c'est vrai qu'en fait ils ont pas grand chose en commun. Puisque vu qu'ils communiquent quasi pas, ce qui les attire en premier, c'est quand même l'aspect physique et la sexualité.
Leurs fesses.
Je vais dire un truc, on connaît tous des gens qui se sont rencontrés certainement au lycée parce qu'ils se trouvaient beaux. Ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Et des fois on se dit...
Ah, moi je connais pas beaucoup de gens qui se sont rencontrés au lycée.
Moi je connais, franchement, je connais peut-être 6 ou 7 couples qui sont des gens qui se sont connus au lycée.
Je connais personne.
Mais sauf que, c'est vrai?
Ouais.
Et en gros, bah, quand on est au lycée, on est un peu con. Hein. Et en fait, la personne qui nous attire, des fois, c'est juste parce qu'elle est beau ou elle est belle.
Ouais, mais, ouais. Oui, mais parce que là, ça, ça s'ancre tout de suite dans un vrai amour, malgré tout. Même s'ils communiquent pas et qu'ils arrivent pas ils s'aiment tout de suite.
Ils ont une connexion très profonde, chacun.
Et c'est vrai qu'ils s'aiment, mais il y a peu d'échanges. Je sais pas, moi, on sait pas ce qu'ils aiment. Enfin,
non, c'est tous les deux.
Bon, à l'école, quoi.
Oui, on sait qu'ils sont tous les deux très intelligents, mais on les voit pas parler d'autre chose que de leur relation, de leur amour, quoi.
Exactement. Et c'est vrai que c'est un truc que Julia m'a dit qui m'a marqué. Et quand je l'ai revu, j'ai pas pu l'enlever de ma tête. J'étais genre, c'est vrai qu'ils parlent jamais, en vrai. Après, ça reste une très belle série sur le désir aussi. Et c'est filmé de telle façon que, voilà, il y a pas besoin de mots. Ils jouent tellement bien tous les deux. Le choix des plans et montre vraiment bien leur attirance à l'un l'autre, donc il n'y a pas besoin. Mais c'est vrai que ça, il n'y a pas. Mais c'est vrai, c'est une série où personne ne communique et c'est extrêmement frustrant. Ça aurait pu être résolu à l'épisode 1 en juste se posant et discutant.
Et est-ce que tu as maintenant une petite idée en tête sur ce que sera ta prochaine série de gens qui parlent dans une pièce?
Non, on a White Lotus en attente.
Megacœur. Ah oui, vas-y.
J'ai téléchargé aussi After Sun.
Tu as... Pardon?
J'ai acheté en VOD After Sun.
J'aime mieux ça, oui, bien sûr.
Oh merde, il y a Dopi à la porte.
Avec la Warner juste derrière. Et Félix Mouet.
Comment ça, je vous ai filé le Covid? Procès. Super, le retour d'état des lumières.
Mais surtout en ce moment, enfin surtout, c'est qu'en parallèle, je regarde le vieux Star Trek The Next Generation.
Voilà, il est là, Joël. Voilà. Non, mais vraiment,
j'ai cru qu'on
l'avait perdu, l'autre.
Tous les jours, je me prépare mentalement.
Je suis rassuré, merde.
Les 60 ans de Doctor Who, je me hype de plus en plus. Là, il y a eu un concert de la BBC avec les nouveaux thèmes de la série. J'en peux plus, là. Donc, faut savoir qu'entre-temps aussi, il y a eu les trois saisons de Doctor Who avec Jodie Whittaker et Chris Chibnall en showrunner. Et ça m'a presque bousculé. Et presque, j'ai douté de mon amour pour la série Doctor Who, tellement j'ai détesté ce qui se passait. Parce qu'il faut savoir,
attends,
c'est une femme qui joue le docteur.
Oh, fuck.
Je voulais aller là-dessus.
Et vous vous rendez compte?
C'est bon, vas-y, continue, on gagne des auditeurs. Vas-y, je vois les chiffres en direct, c'est bon, vas-y.
Vous vous rendez compte, c'est une femme qui joue le docteur.
Et après,
plus,
ils vont faire quoi? Un noir? Mais alors.
Voilà, c'est ce que je dis.
10 auditeurs, plus 10 auditeurs.
C'est ce que je dirais si j'étais vraiment un gros connard. Voilà, non, c'est...
Alors que là, t'as pas aimé juste parce que c'était nul à chier.
J'ai pas aimé parce que c'était fade. Il y avait plus d'humour, en fait. C'était très premier degré. La musique était, on aurait dit du Swan Zimmer, sans saveur. Ouais, ce que je dis, c'était fade. Il y avait plus rien de ce que j'aimais vraiment de la série. Et aussi des épisodes au message politique un peu limite. Genre un épisode sur, ça s'appelait Kerblam, sur l'Amazon de l'espace, où en gros, un jeune employé de cette Amazon de l'espace fait des actes terroristes pour revendiquer un peu plus de droits de travail. Sauf qu'à la fin, le docteur s'aligne avec l'Amazon de l'espace et fait en sorte que cet employé soit buté dans son propre piège en disant que le problème, ce n'est pas le système, le problème, c'est les gens.
Oh no.
Un autre épisode aussi où ils sont enfermés dans un hôtel avec des araignées géantes qui essaient de les buter. Et il y a un personnage qui est Trump, en fait. C'est un mec qui est joué par Mr. Big pour les fans de Sex and the City.
Tu regardes Bruno quand tu dis ça.
J'adore le sexe, j'adore le city.
J'aime la ville.
C'est tout moi.
Qui est joué par Chris Nott, qui joue un businessman qui veut se présenter au présidentiel américain parce qu'il veut se venger de Donald Trump. C'est ça, ces trucs, c'est que...
What?
C'est pour vous dire le niveau d'écriture de la série, c'est que...
Attends, c'est Indiana Jones and the Dial of Destiny, c'est... Parce que dans Indiana Jones and the Dial of Destiny, comme on disait, t'as Mads Mikkelsen, il veut corriger les erreurs qu'a fait Hitler, et pour lui, c'est qu'Hitler était pas assez virulent. Donc là, c'est genre, il veut se venger de Trump en devenant
juste
Trump
parce qu'il est jaloux de
2.0,
son, il est juste jaloux de Trump et il veut faire pareil. Alors c'est censé être...
J'ai presque envie de le voir, en fait.
Non, mais c'est le personnage qui est censé être une représentation de Trump dans la série, sauf que Trump existe déjà dans cet univers, donc ça sert complètement à rien. Et en fait, ce personnage a un flingue et veut tuer les araignées avec son flingue. Et le docteur, qui déteste les armes, dit « Non, il faut pas tuer une araignée, un être vivant avec une arme. » Ce que je vais faire, c'est que je vais les enfermer et les asphyxier. Ce qui est plus humain.
Ok.
Je regrette avoir fait mon parallèle avec Indiana Jones et Inès. Je ne savais pas, pardon.
C'est juste incompréhensible. Et puis il y a un autre épisode aussi. Je vais m'arrêter là parce que ça m'énerve d'en parler. C'est que le maître, qui est un des...
qui est l'antagoniste majeur de Docteur Who.
C'est le
némésis.
C'est le némésis du Docteur.
C'est la plus belle année.
C'est un seigneur du temps comme le Docteur. Ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Ils ont une relation d'amitié qui est devenue ennemie. Puis dans les dernières saisons, Capaldi, le maître qui est devenu Missy entre-temps, et a commencé à se rapprocher. Puis le Docteur a voulu lui montrer un peu la bonne voie. Et on savait que Missy a commencé à accepter un peu la vision du Docteur sur la vie. Et à la fin, elle avait une sorte de rédemption qui était très belle. Et la prochaine fois qu'on voit le Master, il redevient méchant, mégalomaniaque, joué par Sacha Dhawan, qui, je sais pas dans quelle autre série il aurait pu jouer. Je sais qu'il était dans Iron Fist, mais personne n'a vu Iron Fist. Qui est donc un acteur d'origine sud-asiatique. Et à un moment, le Docteur et le Maître se retrouvent pendant la Seconde Guerre mondiale, en haut de la Tour Eiffel. Le maître utilise une sorte de filtre de perception pour se faire passer pour un nazi, enfin pour s'infiltrer dans le nazi, il a le costume de nazi, tout ça.
En Asie du Sud-Est.
Exactement. Ce que fait le Docteur, c'est que le Docteur désactive son filtre de perception, puis elle dit au maître, en appelant les nazis, enfin en faisant venir les nazis de la Tour Eiffel, maintenant les nazis vont voir qui tu es vraiment. Donc en gros, elle utilise la race du maître pour le faire jeter dans un camp de concentration, quoi.
Il y avait un propos derrière tout ça. Est-ce qu'il y avait un truc énervé. Du chemin du docteur qui peut-être déviait de sa trajectoire?
Jamais. Jamais, parce que pendant ces trois saisons, le docteur est un rayon de soleil, un rayon d'espoir dans le monde. Ses compagnons pensent qu'elle est parfaite. À aucun moment, elle est remise en question sur son comportement vraiment très, très, très limite. Et c'est ça qui est vraiment énervant. Encore s'il y avait eu ça, ça va être remise en question de cette attitude qui est vraiment horrible, j'aurais pu comprendre, mais à aucun moment il y a ça. Donc c'est très énervant de voir que le Docteur et cette série qui a toujours été pour moi très optimiste et très bienveillante deviennent ça. Ça m'a énervé du plus profond. Du coup, j'ai revu la série, les 10 premières saisons pendant les confinements pour me rassurer que j'aime vraiment. Et oui, je suis allé à la fin de Capaldi, donc ça me rassure. Et donc j'ai très hâte que Russell T. Davis revienne. J'ai très hâte de voir Shruti Gatwa en Docteur. Et voilà. Et ça revient bientôt. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais...
C'est peut-être revenu. Donc, on va tourner maintenant la séquence de ces revenus. Alors, qu'as-tu pensé de ce retour de Tennant, de Donna Noble?
C'était de la merde.
Non!
On fait les deux versions. C'était nul.
C'était de la merde. Comment j'ai pu m'attendre à ce que ce soit vraiment si bien que ça?
Ok, maintenant Joël, tu me l'as refait, mais cette fois c'était bien.
C'est la meilleure chose que j'ai vue de toute ma vie. Je pense que je peux mourir maintenant.
Ok, bon, tu feras quick au montage, et puis bon, tu choisiras.
Hein. Ouais, je mettrai deux en même temps. Ce sera incompréhensible pour les gens.
On arrive déjà à plus d'une heure et demie d'émission, potentiellement, à peu oui. près, selon le montage, tout ça. Je ne sais pas s'il y a un dernier sujet que vous aimeriez aborder, ou si on avance tous ensemble, main dans la main, vers la fin.
Non.
J'ai plus rien à rajouter sur quoi que ce soit.
Eh ben salut. Non, pardon, on va essayer d'être professionnel. Ouais, je voyais que tu voulais dire quelque chose, Joe.
Non, je repensais au dernier Batman qui est sorti, mais je pense qu'on va pas rajouter 10 minutes de...
Ça fait trop longtemps, non?
Oui.
Et Batman, c'était bien.
Batman, c'était méga bien. Et fuck Christopher Nolan. Batman.
J'irai pas fuck Christopher Nolan, mais meilleur Batman en live action depuis...
Non mais fuck Christopher Nolan sur les Batman, les Dark Knight c'est pété.
Et en fait vous savez quoi, fuck Tim Burton aussi sur les Batman.
Ouais grave.
Et vous savez quoi, non, Zack Snyder autres, on s'en bat les couilles aussi. Par contre c'est meilleur Batman avec Kevin Conroy qui faisait la voix dans l'animation.
C'est vrai qu'histoire d'être dans le fun, on aurait pu rendre hommage à toutes ces célébrités disparues ces 4 dernières années. Rip Marion Gamme.
Oh non, c'est horrible, je viens de rire sur la mort de Marion Gamme.
Mais t'es nul.
On a déjà ri hier sur la mort de Marion Gamme en parlant d'Avengers Marion Gamme et que le méchant, c'était Gérard Hernandez. Et après, j'ai fait la blague, elle est partie sur un claquement de doigts. On s'est gossés comme des idiots. Voilà. Donc on est à la fin de ce premier épisode du retour d'Éteindre la lumière. C'était bordélique, mais nous, c'est comme ça, je pense, qu'aujourd'hui, j'envisage ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez été patient pendant 4 ans et que vous êtes toujours là, vous êtes des malades mentaux.
Mais on vous aime.
Vraiment, c'est super. Hein, ça nous fait plaisir, bien sûr. Mais...
Pourquoi tu dis ça?
Mais vous savez que Bruno...
Il n'aime pas les sentiments.
Il n'aime pas être sincère.
Ce n'est pas que je n'aime pas les sentiments, c'est que je n'aime pas les dire. Mais quand je l'ai dit, c'est que c'est sincère sa mère, hein, par contre. C'est vraiment, je l'ai dit, c'est que vraiment, je le pense, tu vois. Là, ça me fait plaisir de me dire qu'il y a peut-être des gens, ça fait 4 ans, ils se disent « Moi, je suis triste qu'il n'y ait plus éteindre la lumière. » Et là, on est revenu, ils se disent « Mais quoi ?» Et qu'on soit revenu un peu en mode surprise, quoi. Parce que même nous, on est surpris.
On attend vos retours.
C'est ça.
Oui. On attend vos retours.
Si vous avez des envies, parce que il y a d'autres sujets... Enfin, moi, à un moment, je réfléchissais à peut-être parler un peu de jeux vidéo, des trucs comme ça. Y a peut-être des sujets où vous dites, ben franchement, si vous pouviez parler de ça, ce serait sympa. Ou alors, peut-être nous dire, ben cassez-vous, vous n'étiez pas là pendant 4 ans. Surtout, vous n'avez pas changé de matos, donc vous avez la même qualité de son d'il y a 4 ans. Mais putain, bah,
déjà, au moins, on est ensemble, ce qui n'arrivait jamais dans les anciens.
Et ce qui, pour moi, crée plus de rythme et nous permet de rebondir directement les uns sur les autres. Enfin, pas physiquement. j'ai vu ton regard me dire, Bruno, c'est prévu pour la fin. Oui, oui, à la fin, on fait un trampoline humain.
Super. J'achète.
Donc, merci d'être toujours là. Merci de partager Éteindre la lumière avec vos proches. Et l'être aimé vous reviendra. Non, essayez d'en parler, de ce retour. Et dites, bah, moi, j'écoutais ça il y a 4 ans et c'était cool. Et je suis content qu'ils reviennent. Et puis
ils ont l'air plus débiles qu'avant, mais c'est encore mieux.
Et puis peut-être qu'on s'ouvrira à d'autres gens aussi. Enfin, je trouve que maintenant on va peut-être pas s'interdire des trucs. Alors moi, je sais qu'on a envie, mais ça me regarde avec des yeux de vautour quand je dis ça. C'est que maintenant les épisodes, ben ils sortiront. J'allais dire moins régulièrement, sauf qu'on a déjà fait des dingueries en termes de régularité.
On revient la semaine prochaine, 4 mois plus tard.
Mais moi, j'ai juste envie qu'en fait, on enregistre des épisodes quand on est ensemble. Mm-hmm. Je trouve que c'est plus sympa. Et je me dis, bah, peut-être un jour, on sera ensemble, mais en fait, bah, y avait quelqu'un d'autre qui était là. On s'est dit, bah, viens, on a 4 micros. Et puis, il y aura peut-être des gens qui seront avec nous. C'était pas prévu. Ils se retrouvent dans l'émission. Ils diront peut-être 3 phrases, mais on sera quand même content d'avoir peut-être une nouvelle voix dans Éteindre la lumière. Ça veut pas dire que pour autant, on va apporter tirer des gens vers nous,
non.
Mais peut-être que parfois il y aura quelqu'un en plus avec nous juste parce que bah en fait on enregistrait chez moi et je n'étais pas célibataire à ce moment-là. C'était de la science-fiction, c'est parce que Joël est fan de science-fiction, je lui ai fait un petit récit de science-fiction où Bruno n'est pas célibataire.
Après j'ai envie de rappeler aussi que je sais pas si on l'a dit au début de l'émission, mais
t'as eu un bébé, c'est bon, on a compris. Joël, oh là là, elle va pas nous parler des films qu'elle a regardés, elle regarde Choupi et elle lit.
Elle regarde rien.
Elle regarde pas.
Elle lit l'album, regarde, ça c'est une carotte, ça c'est un chou, tu veux qu'elle nous fasse une analyse littéraire? Non, elle ne viendra pas dans le podcast.
Elle t'étonnerait quand même.
Ouais, je suis sûre qu'elle a plein de trucs à dire.
Non, c'est, on va pas parler d'actualité ciné ou série ou jeu vidéo, c'est pas du tout notre envie, on va juste parler de ce qu'on a vu, on a envie
d'en
parler.
Donc ça peut être de l'actu, parce que là je viens quand même de parler du règne animal qui vient de sortir.
Non, mais le but, c'est que c'est plus une émission d'actualité du cinéma. C'est juste des choses culturelles qu'on aime bien. Moi, je sais que j'avais envie d'aborder de la littérature aussi par rapport à des trucs que je lis. Ça peut être de la BD, parce qu'on aime tout ça, tous les trois. Donc, c'est juste une nouvelle forme un peu hybride, parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on aimait faire, c'était juste être ensemble et puis papoter de trucs qu'on aime.
Exact.
Donc, et je pense que si vous êtes là et si vous êtes revenus et que vous avez écouté, c'est pour nous, pas forcément pour ce qu'on dit. C'est qu'en tout cas, nous, vous nous aimez bien. Parce que je voulais aussi remercier tous ceux qui sont venus à les tapas d'amis live qu'on faisait pendant le confinement, où on a regardé des dingueries, genre Cats, Space Jam. Faut pas oublier des grands moments de cinéma, mais qu'on a vécu ensemble et avec vous. Et du coup, bah, merci d'être toujours là et de nous laisser revenir dans vos oreilles.
À dans 4 ans.
Drop mic, à dans 4 ans.
Je viens seulement de tilter que j'ai Eddie Mitchell torse nu devant moi depuis le début de l'épisode. Bye bye, mes chocolats glacés, glacés. Je ne savais pas que j'étais ma cousine. Et je l'ai pris dans la cuisine.
Je connais pas les paroles. Oui, l'enculé, il enregistre.